Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Ligne droite avec Alexandre de Galzin.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin ici sur Ligne droite, la matinale de Radio Courtoisie. C'est un plaisir de vous retrouver en ce 29 avril. Aujourd'hui, eh bien, nous sommes accompagnés de toute l'équipe, à commencer par Maëlys Clozel. Bonjour Maëlys.
Bonjour Alexandre et bonjour à tous nos auditeurs.
Bonjour Magda également qui est avec nous.
Bonjour Alexandre.
Ouais, la technique, c'est Franck aujourd'hui, comme tous les mercredis. Comment ça va, Franck ?
Ça va très bien. Et vous, en pleine forme pour 3 heures de direct avec vous, mon cher Alexandre. Et bonjour aux Lignonautes qui sont déjà sur la chaîne YouTube.
Exactement, voilà. Bonjour à tous qui êtes avec nous ce matin. Aujourd'hui, eh bien, un programme assez intéressant, je trouve. Avec tout d'abord, on parlera à 7h10 de l'ASLA. L'ASLA, donc, cette association des lanceurs d'alerte qui, eh bien, justement, défend les figures du camp patriote et va les honorer. Bientôt, ce sera avec Pierre Larty, un entretien animé par Maëlys Clozel. À 7h25, nous parlerons évidemment d'un grand sujet qui fait beaucoup parler dans le milieu médiatique, c'est cette question du rapport sur l'audiovisuel public qui fait trembler Ernotte. Ce sera avec Roger Chudeau qui était membre de la commission, membre du Rassemblement National et de la commission d'enquête parlementaire à ce sujet. Et puis enfin à 8h20, nous recevrons Jean-Yves Le Gallou, que vous connaissez bien, chers auditeurs. Quand les Français constatent le grand emplacement et le déplorent, effectivement, un sondage particulièrement intéressant à l'US sujet. Et enfin, à 8h57, nous recevrons Emmanuel de Gestas, journaliste indépendant qui revient du front ukrainien et qui nous parlera un petit peu de ce qu'il a pu voir là-bas. Mais avant de commencer tout ce joyeux programme, eh bien, on va commencer par le bulletin d'actualité par Maëlys Clozel.
Les masques tombent et la caste politico-médiatique tremble. La publication du rapport de Charles Loncle sur l'audiovisuel public a été votée à l'Assemblée et il fait sans surprise fortement grincer des dents. Et pour cause, ce que cela va révéler sur l'entre-soi et la propagande de la caste centro-socialiste sur les ondes publiques déclenche évidemment les cris d'orfraie des concernés. À ce propos, Erwan Balanant, député macroniste, annonce un contre-rapport en agitant le spectre d'un retour à l'ORTF, l'organisme d'État qui contrôlait la radio et la télévision en France avant sa dissolution en 1974, un acte qui en dit long sur son souhait de vouloir conserver un biais idéologique assumé dans les médias publics. Jean-Jacques Cordival donnait sa vision de l'audiovisuel public hier à notre antenne, on l'écoute.
Nous, on n'a jamais été pour la privatisation, mais quelqu'un m'a demandé il y a peu, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, mais un audiovisuel public fort, oui, on est d'accord. Alors, c'est quoi la solution? Mais c'est sans cette équipe. On ne peut pas vouloir un audiovisuel public fort en constatant que pendant 10 ans, ça a été du grand n'importe quoi. Il y a un moment ou un autre, on dit, c'est bon, on change, c'est terminé, et là, on passe à un audiovisuel public fort. Voilà. Mais avec des règles, il y a des règles, il y a des règles de contrôle par le Parlement, bien évidemment, c'est normal. On est une entreprise publique. France Télévisions est une entreprise publique. Je dis on, je m'associe pas à, forcément, je parle en tant que contribuable, parce qu'on paye tous France Télévisions, puisque c'est une fraction de la TVA aujourd'hui. C'est pas que les contribuables, c'est tout le monde. Vous payez tous, vous achetez un pot de confiture, vous payez la redevance, enfin la redevance, ça s'appelle plus la redevance, mais vous payez France Télévisions. Voilà, vous achetez des couches pour bébé, France Télévisions.
C'était Jean-Jacques Cordival sur Ligne droite. L'entretien complet est à retrouver sur notre chaîne YouTube.
Et puis Emmanuel Macron n'est plus favorable au réarmement démographique.
C'est cela, en déplacement à Andorre-la-Vieille, le président français, aussi co-prince d'Andorre, met la pression pour faire évoluer la législation sur l'avortement. Il appelle ouvertement à sa dépénalisation dans un pays qui, avec le Vatican, protège encore juridiquement toute vie à naître. Une ligne rouge pour de nombreux opposants qui dénoncent surtout une ingérence et une remise en cause brutale des fondements catholiques du pays. Le chef du gouvernement Xavier Espot Zamora évoque quant à lui une évolution encadrée, mais le sujet reste explosif entre pression politique extérieure immorale et défense d'un modèle qui refuse de banaliser l'IVG et doter des vies décrites comme illégitimes ou non souhaitables.
Et puis à un an de la présidentielle, le RN annonce la couleur.
Oui, absolument, c'est dans un entretien accordé à l'AFP que Marine Le Pen s'est livrée sur sa stratégie. La députée du Pas-de-Calais vise un second tour pour 2027 face au Bloc central plutôt que contre Jean-Luc Mélenchon, afin d'imposer un véritable choix politique selon cette termes. Elle cible notamment la coqueluche centriste au discours réchauffé de la Macronie comme Édouard Philippe, qu'elle présente comme le candidat d'un système central réunissant droite et gauche. Selon les rares sondages disponibles, le RN serait très largement vainqueur face à Jean-Luc Mélenchon, avec des scores dépassant les 70%. Notons que ces tests concernaient surtout Jordan Bardella en représentant. En revanche, le duel serait beaucoup plus serré face à Édouard Philippe, donné hélas gagnant dans plusieurs enquêtes d'opinion, mais aussi bien contre Marine Le Pen que contre Jordan Jordan Bardella, espérant que les Français auront le courage de compromettre ses prévisions.
Et puis un succès inattendu pour le service national.
Oui, l'armée de terre enregistre déjà plus de 2300 candidatures de jeunes intéressés par le service national de 10 mois pour 1800 places ouvertes à l'automne 2026. Un engouement notable notamment pour les unités de combat qui concentrent à elles seules 90% des demandes. Destiné aux 18-25 ans, ce service de 10 mois rémunéré à environ 800 euros vise à renforcer l'esprit de défense. L'objectif affiché est de monter progressivement en puissance jusqu'à 10 000 jeunes engagés en 2030. Espérons désormais que nos jeunes soldats ne seront pas envoyés au casse-pipe dans des pays en conflit qui nous méprisent à la moindre occasion. Ce qui est certain, c'est qu'il s'agit surtout d'une dynamique qui traduit un regain d'intérêt pour l'engagement militaire chez les jeunes Français.
Et puis une fois n'est pas coutume pour le sport, vous nous parlez de football.
En effet, comme quoi tout arrive au terme d'un match totalement fou au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain s'est imposé 5-4 face au Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Un but d'avance précieux pour les hommes de Luis Enrique, mais rien n'est joué. La qualification en finale de la Coupe aux Grandes Oreilles se décidera au match retour en Allemagne dans une semaine.
Il y a des vestiges dans le quartier d'ailleurs, merci.
Oui, exactement. Et c'est vrai que nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais on est juste à côté du Parc des Princes, donc je peux vous dire qu'on sait quand c'est un lendemain de match. Et puis, pour ce qui est de la météo, Maëlys.
Oui, aujourd'hui, un temps instable à bord de l'arc atlantique avec quelques orages. Partout ailleurs, le temps est plus calme avec le retour d'un soleil généreux par rapport à la veille du sud-est au centre-est. Côté température, nous attendons pour les maximales de 15 à 25 du nord au sud, avec notamment 15 à Charbourg, 20 à Lille, 24 à Paris. Et nous célébrons en ce 29 avril Sainte-Catherine de Sienne et Saint-Tropez, Saint-Protecteur des marins et Saint-Patron de la ville de Saint-Tropez.
Eh ben super, merci beaucoup Maëlys.
Ligne droite.
Et tout de suite, on passe au décryptage avec Magda Hautefeuille.
Chers auditeurs, pendant que l'attention se porte et à raison sur la situation internationale, l'Europe en profite pour faire avancer un autre dossier tout discrètement. Effectivement, l'accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur doit entrer en vigueur ce 1er mai, après plus de 25 ans de négociations. Mais un élément très important vient d'y être ajouté. En toute discrétion, à quelques jours de l'échéance, vient un simple acte technique adopté le 20 avril. Il s'agit officiellement d'un règlement d'exécution, autrement dit un texte censé régler des détails pratiques. Mais dans les faits, ce qui a été validé va bien au-delà. Il concerne directement les quotas d'importation de viande, un point extrêmement central pour les agriculteurs européens et français. L'accord prévoit notamment 99 000 tonnes de viande bovine importées chaque année avec seulement 7,5% de droits de douane et 180 000 tonnes de volailles à 0%, donc là sans droit du tout. Ces volumes seront introduits progressivement, mais ils sont loin d'être anecdotiques pour les filières concernées. Jusqu'ici, le système européen fixait des volumes, puis distribuait des licences d'importation à des entreprises européennes avec des règles destinées à éviter qu'un seul acteur ne capte l'ensemble du marché. Il y avait une forme de concurrence, plusieurs fournisseurs et un petit minimum d'équilibre. Mais maintenant, la gestion de ces quotas n'est plus réellement maîtrisée par l'Union européenne. Elle est en grande partie transférée aux pays du Mercosur eux-mêmes qui pourront décider quels exportateurs bénéficieront des quotas. Et un nouveau mécanisme vient verrouiller le système. Pour exporter à tarif réduit, il faudra désormais un document délivré par les autorités du pays exportateur et non plus par un simple certificat douanier classique. Conséquence, un importateur européen ne pourra plus choisir librement son fournisseur, il devra passer par les entreprises désignées par les États exportateurs. C'est là qu'intervient le groupe brésilien JBS dans un système comme celui-ci qui vient d'être validé. Ce type de groupe a un avantage évident, s'il capte la majorité des quotas, il peut contrôler les volumes, fixer ses prix et capter ce que les économistes appellent la rente du quota, c'est-à-dire la différence entre le coût de production et le prix de vente sur le marché européen. On parle de centaines de millions d'euros par an. Ce n'est pas une hypothèse puisque cela s'est déjà produit avec l'Ukraine. Le groupe MHP, leader de la volaille, avait capté plus de 90% des quotas d'exportation vers l'Union européenne avant d'utiliser ses profits pour acheter progressivement des entreprises en Europe. Autrement dit, ce modèle est connu, il a déjà produit ses effets et l'Union européenne reproduit aujourd'hui les mêmes mécanismes. Ce qui est présenté comme un ajustement technique est en réalité un basculement, un transfert de contrôle, une perte de maîtrise sur un levier stratégique, celui de l'accès à son propre marché. Plusieurs pays ont voté contre, dont la France, la Pologne, la Hongrie. Des acteurs du secteur agricole tirent la sonnette d'alarme. Certains parlent même d'un précédent inédit dans l'histoire des accords commerciaux européens. Mais malgré cela, le texte est adopté et il entre en vigueur. La Commission européenne explique que tout était prévu depuis 2019 et qu'il est désormais trop tard pour revenir en arrière. D'anciens responsables contestent cette version et affirment que ce mécanisme n'a jamais été formellement acté de cette manière. Le débat juridique existe, mais dans les faits, la décision est prise. Et pendant ce temps, le discours reste le même, libre-échange, ouverture, compétitivité. Mais concrètement, on a quoi ? Eh bien, des producteurs européens soumis à des normes strictes face à des acteurs étrangers capables de produire à moindre coût et désormais en position de contrôler une partie de l'accès au marché européen. Autrement dit, on organise une concurrence déséquilibrée et on le fait en connaissance de cause. L'Union européenne ne se contente donc pas d'ouvrir son marché, elle en délègue progressivement le contrôle au nom d'une logique commerciale qui ne tient pas compte des rapports de force réels, un choix qui engage directement la souveraineté économique et l'avenir de secteurs entiers, à commencer évidemment par l'agriculture.
Merci beaucoup, Magda.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, eh bien, je vais laisser la place à Maïlys Clauzel qui reçoit eh bien, Pierre Larty, porte-parole de la SLAM.
Bonjour Pierre Larty.
Bonjour Maïlys, bonjour à tous les auditeurs.
Alors aujourd'hui, vous allez justement nous parler d'une fameuse soirée que vous organisez donc avec l'association en soutien aux lanceurs d'alerte. Alors vous avez fait un petit peu la communication sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Alors est-ce que vous pouvez en premier lieu nous expliquer l'objectif de cette soirée et pourquoi est-ce que vous avez choisi de l'organiser ?
Alors avec plaisir, déjà rappelons l'objectif de l'ASLA, l'association de soutien aux lanceurs d'alerte. L'ASLA c'est une association qui a été créée il y a 5 ans et qui a pour but d'être le fer de lance judiciaire des lanceurs d'alerte des droites et de toutes les droites. L'objectif c'est quoi ? C'est d'utiliser les tribunaux pour pouvoir porter les combats de ces lanceurs d'alerte qui prennent des risques sur des sujets comme l'immigration, l'islamisation, l'insécurité, le wokisme notamment. Et depuis 5 ans, nous enregistrons un certain nombre de victoires face à des géants, notamment Meta, face au ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Et donc, fort de ce bilan positif de l'ASLA et de 5 années de victoires, de cette droite qui gagne, on a voulu rendre hommage à ceux et celles que nous servons, à ces lanceurs d'alerte qui prennent des risques. Et donc nous organisons pour nos 5 ans la première nuit des lanceurs d'alerte, dont l'objectif c'est un peu calqué sur le modèle des Césars, si vous voulez. On va remettre des prix à des personnalités, à des lanceurs d'alerte qui ont pris des risques et qui ont eu le courage de porter leurs idées avec derrière des risques judiciaires. Donc ils seront nombreux, issus du monde politique, issus des médias, issus des structures associatives. On a annoncé plusieurs personnes et personnalités déjà, il y en aura d'autres qui vont arriver dans la semaine. Donc c'est une grande et belle soirée qui s'annonce le mercredi 6 mai prochain.
Bien écoutez, superbe. Alors on imagine que lors de cette soirée, vous avez certainement décerné des prix assez divers. Est-ce que vous pouvez nous les dresser ?
Oui, alors on va décerner des prix des Thémis. Hein. Thémis, d'accord, c'est le dieu grec de la justice. Nos Thémis, ils vont être sur différents sujets, des lanceurs d'alerte sur le wokisme, sur l'islamisation, des structures militantes, des structures journalistiques, médiatiques. Donc on aura différents prix avec différentes interventions derrière. Voilà, l'idée, une fois de plus, c'est de mettre au centre ces personnalités qui prennent des risques et qui portent des sujets fondamentaux comme je les ai rappelés précédemment. Vous avez, j'ai écouté avec attention votre bulletin d'information et les lanceurs d'alerte aujourd'hui sont absolument nécessaires dans notre société. Regardez le travail qu'a fait Monsieur Alloncle.
Bien
Charles
sûr.
Alloncle est un lanceur d'alerte. C'est peut-être l'archétype même du lanceur d'alerte aujourd'hui pour décrire ce que c'est qu'un lanceur d'alerte. C'était quelqu'un qui pose une problématique sur la table avec toutes les complexités, toutes les difficultés, toutes les tensions qu'il y a autour, avec des pistes d'amélioration. Les lanceurs d'alerte, si vous voulez, c'est un peu comme des phares dans notre société bien sombre. C'est des points de repère qui nous permettent à la fois de nous repérer, mais aussi d'éclairer un chemin plus vertueux. Donc on a besoin des lanceurs d'alerte et on a besoin de structures comme l'ASLA pour porter aussi dans les tribunaux ces lanceurs d'alerte, parce que vous savez, le système gouverne mal mais se défend très bien. Et donc ces lanceurs d'alerte, ils font face à plusieurs dizaines de milliers d'euros et plusieurs dizaines de procédures judiciaires bâillons pour certains. Et donc on est là, nous, pour les accompagner financièrement, juridiquement, stratégiquement, médiatiquement, voilà.
Alors justement, vous avez parlé de ce rapport qui fait grincer les dents des uns et des autres de Monsieur Alencle, effectivement, eh bien, il y a un rôle central que les médias alternatifs, notamment, jouent au sein de notre société, et donc notamment via ce combat politique, si j'ose dire. On imagine que vous allez aussi décerner des prix, notamment sur la liberté d'informer. En tout cas, c'est ce que j'ai vu sur Instagram. Selon vous, justement, donc, quel est ce rôle que les médias alternatifs entreprennent au sein de ce combat?
Alors ce rôle, il est fondamental et vous l'avez vous-même défini, c'est la liberté d'informer et de s'informer différemment, tant sur les thématiques portées que sur les regards à poser sur ces thématiques. Quand j'écoute Radio Courtoisie, je me sens plus proche des analyses journalistiques de Radio Courtoisie que de celles de l'Humanité ou de Libération. Ça ne veut pas dire que je ne lis pas Libération, je ne lis pas vraiment l'Humanité, mais ce que je veux dire, vous avez un rôle central parce que vous êtes un porte-voix intellectuel de ces courants de droite. Je sais que vous avez la vie dure. Certains veulent garder ce précaré. On voit autour des sujets sur l'audiovisuel public. Vous avez tout un pan de la caste médiatico-politique qui veut absolument préserver le système de l'audiovisuel public pour éviter que des médias alternatifs qui ont plus de succès tant sur le contenu que sur la rentabilité, entre guillemets, par rapport à l'audiovisuel public. Votre rôle, il est fondamental. Une fois de plus, une société qui n'aurait pas de contre-pouvoir médiatique serait une société absolument totalitaire. Il faut probablement un peu d'audiovisuel public, mais en l'état actuel, on a affaire à une espèce de rouleau compresseur qui n'est pas là pour informer ou divertir les Français, mais qui est là pour lobotomiser les esprits et les idées. On le voit avec des plateformes comme Slash TV, on le voit avec des émissions sur France Inter, dont la teneur politique est auprès de 2/3 à gauche, selon l'Institut Thomas More. Donc si vous voulez, vous avez un rôle essentiel, fondamental. On vous met des bâtons dans les roues, mais il faut tenir.
Effectivement, il faut tenir, et vous, avec l'ASLA, vous tenez donc depuis maintenant 5 ans. On imagine qu'il y a eu un certain nombre d'évolutions entre aujourd'hui et le début donc de votre association. Qu'est-ce qui a véritablement changé selon vous, notamment par rapport au quotidien de ces lanceurs d'alerte?
Alors je dirais que pour moi la principale évolution, c'est l'objectif de l'association. Initialement, c'était un bouclier. Si vous voulez, on était là pour se défendre, pour empêcher les coups. Donc on a défendu des structures militantes, on a défendu des personnalités, mais si vous voulez, on était dans une position de défense. Aujourd'hui, on a complété cette position de défense, qui est nécessaire, une fois de plus, face à un système qui attaque durement. On a complété notre vision avec une vision plus offensive. On va rentrer dans l'arène judiciaire. On va aller se battre contre la gauche, contre les wokistes, contre les islamistes, et on va faire sauter, par exemple, des subventions à SOS Méditerranée. Hein, l'ASLA a fait sauter 2 subventions à SOS Méditerranée, l'une à Montpellier, l'autre à Saint-Nazaire, en partenariat avec un élu RN. On a eu des victoires sur Meta, un géant, si ce n'est le géant des réseaux sociaux dans le monde, eh bien, qui s'était permis et qui s'était octroyé le droit de censurer des comptes de personnalités appartenant toutes à la droite. Eh bien, plutôt que se dire « Ah mince, on est face à Meta, on va jamais avoir la possibilité de se défendre », eh bien, on y a été et on les a... on les a assignés, on les a fait plier, et donc on a restauré les comptes. Donc vous voyez, on a aussi maintenant une vocation plus offensive pour aller mettre des coups à la gauche, mettre des coups à ces mondialistes, et derrière avoir des victoires.
Alors justement, vous avez dressé donc toutes ces belles victoires que vous avez obtenues, d'un point de vue notamment judiciaire. Y en a-t-il une particulièrement qui vous a vraiment marqué, ou au moins marqué un certain tournant au sein de l'association? Enfin, à ce niveau-là, qu'en est-il?
Alors moi, c'est vrai que la victoire face à Meta est pour moi très révélatrice, si vous voulez, à la fois de notre état d'esprit et en même temps de l'adage « impossible n'est pas français », on l'a fait nôtre. Si vous voulez, vous êtes face à un géant qui pèse plusieurs dizaines de milliards de dollars dans le monde, face à une petite association comme nous, composée de quelques bénévoles. Et on les a fait plier et on a permis la restauration des comptes visés. Donc ça, pour moi, c'est un symbole. Je vais en citer un deuxième parce que je pense que c'est important. On a aujourd'hui des lanceurs d'alerte locaux qui nous font confiance, des gens qui prennent des risques socialement, juridiquement, financièrement à dénoncer par exemple les écoles de formation islamistes. Je pense notamment à l'IESH. Vous vous souvenez, c'est cette école de formation en sciences humaines ou prétendument en sciences humaines qui est en fait une officine salafiste, qui avait ouvert une école à Nevers. Eh bien, des lanceurs d'alerte locaux, Pascal Le Petit en tête, nous ont fait confiance et se sont dit, plutôt que de porter ma voix seule dans mon coin, je vais m'associer à la SLA. Et donc, on a réussi à porter son message. Et je pense qu'on a été un des contributeurs sur la pression qu'on a mise sur l'IUSH pour la faire fermer. Derrière, des personnalités de premier rang se sont greffées à ce mouvement. Je pense à Marion Maréchal, je pense à Nicolas Dupont-Aignan. Donc, si vous voulez, c'est pour moi aussi révélateur de la nécessité d'une forme d'union des droites, d'une forme d'union des bonnes volontés pour gagner. Je crois que l'objectif in fine, c'est faire gagner la droite. Point barre.
Alors, vous l'avez dit, ces lanceurs d'alerte prennent des risques au quotidien, mais il y a quelque chose qu'on remarque, hein, manifestement, c'est que l'État, finalement, ne les protège pas tant que ça. Quelles sont, selon vous, les mesures absolument phares que devrait prendre l'État pour protéger, justement, ces lanceurs d'alerte, donc notamment les lanceurs d'alerte patriotes, hein, puisque, voilà, si on considère qu'il en aurait la volonté?
Déjà, vous avez tout à fait raison. L'État ne protège pas ces lanceurs d'alerte. Je vais même aller plus loin sur les lanceurs d'alerte patriotes. L'État cherche à les faire plier. L'État cherche à les détruire juridiquement, financièrement, socialement, moralement. Ça, c'est une réalité. Donc, il faut résister. Je pense que la première des manières d'aider les lanceurs d'alerte qui en sont victimes, c'est de les soutenir. C'est de soutenir juridiquement. C'est d'aller au combat. Il ne faut pas fuir le combat. Il y a un combat face à un système qui est puissant, mais qui est en fin de vie. Et donc, il faut y aller. C'est dur, mais il faut y aller. Il y a des associations comme l'ASLA qui sont là pour aider, je vous dis, financièrement, juridiquement, stratégiquement, médiatiquement. Et puis, donc ça, c'est le court terme. C'est on fait front, on y va et on replie, on repousse l'ennemi. Deuxième point, aujourd'hui, il y a toute une réflexion à avoir sur un statut protecteur juridiquement, un statut de lanceur d'alerte, si vous voulez, quel qu'il soit d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on pourrait imaginer que certaines personnalités soient labellisées. Macron est bien labellisé, on pourrait labelliser des lanceurs d'alerte, y compris dans le camp patriote, pour que à la fois leurs propos, leurs écrits, leurs sorties médiatiques, sous couvert du respect, je dirais, de la loi d'ordre public, soient sanctuarisés. Et puis, on peut dénoncer l'immigration, ses conséquences, sans risquer de se retrouver tous les quatre matins à la 17e chambre correctionnelle à Paris. Voilà, donc je pense qu'il y a des avancées législatives à porter. On est plutôt sur du moyen long terme. Et là, on a besoin d'avoir un relais à l'Assemblée nationale pour pouvoir porter cette nécessité de changer la société française.
Alors, il nous reste deux grosses minutes. Pierre Larty, donc justement, vous nous avez parlé de cette soirée qui donne évidemment envie de s'y rendre. J'invite tous les auditeurs à y aller s'ils en ont l'envie. Mais quels seront les prochains grands combats de l'ASLA au-delà de cette soirée?
Alors, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je vais vous citer un combat qui va finir par arriver. On soutient Éric Zemmour face aux députés délinquants, complices de meurtriers, Raphaël Arnaud. Ça va être un combat, on va y aller. Et on accompagne M. Zemmour. Je rappelle que Raphaël Arnaud, avant le drame et le lynchage à mort de Quentin à Lyon, Raphaël Arnaud s'était permis de dire qu'il allait dézinguer notamment Éric Zemmour et puis tous les patriotes de manière générale. Donc, mais ça, voilà. On a d'autres enjeux et d'autres procès. Je pense notamment à Damien Rieu qui fait face des islamo-droitistes, vous savez, ces républicains qui en fait font tout pour donner des gages à gauche et aux islamistes. On en a pléthore. Il y a le soutien aux natifs, à des groupes identitaires de terrain. Voilà, donc on a des combats, on a aussi des réseaux qu'on entretient. On va être par exemple le 16 mai à Londres avec cette grande manif qui va encore rassembler peut-être plus d'un million de personnes, organisée par le lanceur d'alerte Tommy Robinson, lanceur d'alerte populaire, patriote, anglais, qui fait l'exercice de fédérer tout le Royaume-Uni sur ce sujet, avec succès. Voilà, donc, mais la première des choses, c'est notre soirée, elle s'y met. Pour la billetterie, il reste encore quelques places, asla.fr ou le jour J, à deux pas de l'Assemblée nationale, sur les quais.
Sublime. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Pierre Larty, d'être venu à notre antenne ce matin. Chers auditeurs, je me permets également de glisser que je serai aussi à Londres le 16 mai pour vous réaliser un reportage sur cette grande mobilisation organisée par Tommy Robinson. Donc voilà, j'ai très hâte d'y être et de vous filmer tout ça. Merci beaucoup Pierre Larty. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'ASLA et à très bientôt.
Merci à vous.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, merci d'être avec nous ce matin. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, donc, comme vous le savez, eh bien, c'est une nouvelle matinale que vous êtes en train de suivre sur ligne droite, la matinale de Radio Courtoisie. À 8h15, nous recevrons notamment Philippe Vardon qui nous parlera, eh bien, qui aura sa chronique hebdomadaire. À 8h20, nous recevrons Jean-Yves Le Gallou, mais tout de suite, Roger Chudeau va nous parler de l'audiovisuel public.
Ligne droite. Le grand entretien.
Et pour ce grand entretien, j'ai le plaisir de recevoir Roger Chudeau. Roger Chudeau, bonjour. Vous êtes bonjour. Député du Rassemblement national et vous étiez membre de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. Donc commission de 31 membres qui a évidemment fait beaucoup parler ces derniers mois, il faut le dire, parce que ça a secoué quelque part le landerneau parisien. En réalité, se posait la question donc, de la publication du rapport sur cette commission sur l'audiovisuel public. On a appris donc, que bien, ce rapport était adopté, effectivement, oui. À 12 voix contre 10. Déjà, c'est arrivé, il me semble, uniquement deux fois qu'un rapport soit enterré par la commission. Cette fois-ci, on est passé à vraiment pas grand-chose, 12 voix contre 10. Est-ce que vous pourriez expliquer déjà pourquoi ça a été aussi serré, comment ça s'est passé, pourquoi, et s'il y a eu tant de pression pour ne pas publier ce rapport ?
Eh bien, écoutez, c'est l'enjeu du rapport qui était en cause, évidemment. Ce rapport, pour la première fois, finalement, dans l'histoire de la Ve République, s'intéressait de près au service public de l'audiovisuel, à sa neutralité et à son financement. C'est un sujet que la gauche a considéré comme étant une sorte de tabou, de totem, il ne fallait pas en parler. Il allait de soi que le service public leur appartenait, n'est-ce pas, et ne pouvait être en aucun cas ni questionné ni mis en cause. Et ce rapport a établi, au bout de 230 auditions, que les choses n'allaient pas du tout, que les 4 milliards d'argent public étaient dépensés, n'étaient pas correctement administrés, et que surtout... le service public se caractérisait par des partis pris idéologiques très très nettes, dont on peut dire clairement qu'ils faisaient penser l'ensemble du service public à gauche, et ceci depuis très longtemps.
Parce que c'est un rapport qui donc, est fait en trois parties, donc une première sur la neutralité du service public, une deuxième partie sur les conflits d'intérêts qui peuvent exister, et enfin une troisième partie sur les financements du service public.
Parfaitement, et dans les trois points, évidemment, le rapport de 400 pages... révèle un certain nombre de turpitudes ou de situations qui ne sont pas convenables en matière d'utilisation de l'argent public. Et évidemment, l'enjeu du rapport, et pour répondre à votre première question, le fait qu'il y ait eu un tel tir de barrage, à la fois de la gauche unie, nos Front Populaire, et d'une partie du centre, largement, tient au fait que ces gens, ce système, se sentaient directement mis en cause et publiquement mis en cause. Ces gens n'avaient pas l'habitude de rendre des comptes, et je pense que ça a été un bien pour la démocratie et pour la République qu'enfin ils aient des comptes à rendre sur leur comportement et sur leur gestion de l'argent public.
Sur la question de la neutralité, ce qu'on voit, c'est que si on était un petit peu taquin, on pourrait se dire que les votes qui ont été réalisés en commission sont plutôt représentatifs des soutiens que le service public peut aussi apporter à certains camps.
D'ailleurs, c'est assez net, précisément l'hystérie presque de l'opposition, notamment de gauche, vis-à-vis de Charles Alloncle, le rapporteur, et la démonstration qu'il se sentait directement, enfin que la gauche se sentait directement attaquée, visée, car elle se sent toujours propriétaire du service public, d'une certaine manière. Et ceci a des fondements historiques. C'est-à-dire qu'après la libération, il y a une sorte de compromis historique, comme on disait en Italie. À la gauche, grosso modo, le champ de la culture, des médias et de l'éducation, mais de l'enseignement supérieur. À la droite, le champ de l'économie et du régalien. Je pense que ce compromis a volé en éclats. Il n'y a aucune raison, mais vraiment aucune, pour que la gauche se sente propriétaire des médias et du domaine de la culture, ni d'ailleurs aussi non plus du domaine de l'éducation. Donc là, c'est un coin qui a été introduit sous la porte, et je pense que ça ne fait que commencer. Mais nous aurons des réactions très vives de la gauche, qui va sûrement dans les... dans les heures et les jours qui viennent, s'efforcer de décrédibiliser ce rapport.
Oui, parce qu'effectivement, alors, un argument qu'on retrouve très souvent, c'est que ce serait un rapport bolloresque, que ce serait un rapport d'extrême droite, finalement.
Oui, bien sûr. Alors, évidemment, la gauche considère que Jean Valoncle est l'agent, si je puis dire, de Bolloré, qu'il est, comme disait M. Patrilettus, le président de la commission hier, sur une chaîne de service public. Patrilettus accusait à mi-mot Jean Valoncle d'être le cheval de Troie du Rassemblement National, lequel a pour projet, effectivement, c'est inscrit dans le projet de Marine Le Pen, de privatiser une grande partie...
On reviendra là-dessus, effectivement,
oui,
plus tard.
De privatiser une grande partie du service public. Bref, les procès d'intention vont abonder, il n'y a aucun problème, bien entendu, mais d'une certaine manière, c'est l'hommage du vice à la vertu. C'est-à-dire que plus ces gens s'excitent sur le rapport et tentent de nous traiter de fascistes, d'extrême droite, etc., et d'ennemis du service public, plus ils manifestent par là que, en fait, ils agissent en propriétaires qui se sentent lésés, hein, et dont qui sentent que leur système leur échappe maintenant.
Alors, et on va essayer de revenir un petit peu sur tous les points, hein, donc voilà, neutralité, conflit d'intérêts, financement, mais évidemment, pour partir sur de bonnes bases, quelle est la mission réelle de l'audiovisuel public ? C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, ce qui est difficile à définir, c'est est-ce que ça... déjà, il n'y a pas que de l'information, il faut le dire. Dans l'audiovisuel public, on voit que, par exemple, il y a plein d'émissions que peut-être que nos auditeurs regardent, hein, mais de divertissement, des émissions, et bien même des séries, enfin plein de choses qui sont réalisées. Quelle est la mission de toutes ces chaînes ?
C'est défini par la loi, c'est informer, divertir, n'est-ce pas ? Et donc, bon, informer, évidemment, hein, c'est l'objet de tout organisme de l'audiovisuel, toute l'information, de tout le système d'information. Divertir, bon, ça peut se concevoir, bien entendu, mais je veux dire que le service public, actuellement, fait des choses qui ne relèvent pas à proprement parler uniquement du service public. Je pense, par exemple, à la retransmission, des matchs de football, c'est très bien, mais enfin, je veux dire, le privé le fait très bien. Je veux dire, Canal Plus le fait très bien, d'autres chaînes privées le font très bien. On ne voit pas très bien la valeur ajoutée du service public. Il devrait y avoir une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée devrait être la qualité de l'information. Et la qualité de l'information, c'est son objectivité et sa neutralité. Or, c'est précisément là, sur le premier point du rapport, que cela achoppe, si vous voulez. Hein ? Manifestement, il y a un parti pris de gauche dans la présentation de l'information. Hein ? Bien sûr, on présente des faits, mais ensuite, ils sont présentés de façon biaisée, très souvent. Et les commentaires sont tous, manifestement, enfin, en grande majorité, dirons-nous, très biaisés du point de vue politique. Enfin, c'est radio Rue de Solferino, comme on disait autrefois quand le PS était Rue de Solferino. C'est radio gauche, radio politiquement correct.
Alors, d'un autre côté, moi, je veux dire, Roger Chudeau, en tant que journaliste, je sais que la neutralité pour un journaliste, c'est pas quelque chose qui est vraiment possible. Dans le sens où, si vous voulez, un journaliste, on peut lui demander d'être honnête, on peut lui demander d'être de bonne foi, mais lui demander d'être neutre, c'est pratiquement impossible, parce que dans la manière de prononcer une phrase, dans la manière de choisir les sujets, il y a toujours des biais d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut demander quelque chose qui est humainement pas possible réellement au service public ?
Alors, vous avez raison, il y a toujours une part de subjectivité et on ne peut pas interdire, c'est impossible et puis ça n'a aucun sens, à un journaliste de laisser entrevoir son positionnement idéologique, politique ou philosophique par rapport à tel ou tel sujet. Ça n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir de police de la pensée, c'est pas l'idée. Non, l'idée c'est d'abord d'être honnête, dire écoutez, je vous présente une information, un fait, et voici ce que j'en pense. Et j'en pense ceci parce que j'ai cette telle sensibilité, premièrement, honnêteté. Ensuite, équilibre, parce que c'est bien... quand on présente un fait, on présente par exemple la guerre à Gaza, très bien, si on la présente uniquement comme un génocide, c'est-à-dire... comme selon la doxa de l'extrême-gauche islamo-gauchiste, c'est un génocide. Si on martèle ça, là, on fait de la politique. On ne fait plus de l'information, on fait de la politique. On a le devoir, quand on est un service public, en l'occurrence, pour rester sur cet exemple, évidemment, d'inviter des personnalités qui considèrent que ça n'a absolument rien qu'il n'y a pas de génocide à Gaza, au contraire, que le terme de génocide est non seulement contestable, mais honteux. Mais ces gens-là n'ont jamais eu pratiquement le micro, ou le plateau, hein, ou alors de manière très déséquilibrée. C'est trois quarts islamo-gauchistes et un quart, mettons, plus objectif ou pro-israélien, etc., ou défendant Israël. Et c'est ce déséquilibre qui a été pointé,
oui,
pointé
parce que en réalité, ce qu'on sent surtout sur le service public, c'est que les journalistes eux-mêmes sont pour le coup quasiment tous effectivement de gauche, qu'ils n'existent pas vraiment, ou au moins du centre d'une certaine façon, mais c'est vrai qu'on aurait du mal à définir des éditorialistes ou des journalistes qui sont de gauche, enfin qui sont de droite pardon, sur le service
public.
C'est
absolument. Enfin,
et peut-être que le problème des Français finalement, est-ce que c'est pas finalement de pas se sentir représenté dans ses opinions,
parce que dans l'émission du service public, il est indiqué clairement que le service public doit être la traduction de la sensibilité des Français.
Donc, c'est écrit, ça, pour le coup, dans les statuts.
Oui, c'est marqué équilibré diversité. Bon, il y a pas, enfin, la diversité, elle est plus que biaisée, hein, c'est certain. Et donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, le service public appartient idéologiquement à la gauche. D'ailleurs, il y a un passage, vous verrez dans le rapport, il sera publié lundi, il y a un passage sur les écoles de journalisme, c'est très intéressant. Hein, le rapporteur a auditionné les responsables des grandes écoles de journalisme de Lille et de Paris, de Bordeaux, etc. Et leur a fait remarquer que parmi les personnalités qui étaient invitées pour plancher devant les étudiants journalistes, curieusement, c'était 9 sur 10 étaient de gauche. Et que, par exemple, il n'y a jamais un député RN qui est passé à Lille dans un amphi, par exemple. Hein. Or, nous sommes quand même, avec l'UDR 142, la majorité de l'Assemblée nationale, nous représentons 42% de l'électorat, eh bien, il n'y a pas moyen d'être invité à plancher devant des journalistes sur des questions d'intérêt général, de politique.
Alors, déjà, est-ce que sur les invités du service public, ils respectent une forme d'équilibre, justement, au niveau des politiques? Parce que ça, pour le coup, c'est imposé par l'ARCOM.
Oui, mais enfin, ça n'est pas vraiment respecté. Enfin, effectivement, il y a parfois, mais... Regardez, prenons l'exemple d'hier. Bon, hier, les grands médias donc, du service public ont couvert l'information selon laquelle le rapport avait été adopté et publié. Bien, très bien. Qui a défilé sur les plateaux, franchement? Un ministre, Lescure, non, deux ministres, Lescure et Madame Bréjon, je crois, porte-parole du gouvernement. Mmh. Et puis Monsieur Patrieletus, président de la macroniste de la commission d'enquête, qui a dit tout le mal qu'il pensait du rapport sur le fond, même s'il était d'accord et qu'il a voté pour. Hein. Mais voyez, donc il n'y a pas eu de contradiction. Charles Lalonde n'a pas été invité, c'est quand même extraordinaire. Mmh. Il n'a pas été invité sur ses listes publiques, ni aucun autre député, on a été 12 quand même, qui aurait pu donner le point de vue de ceux qui ont voté pour. Mmh. Donc ça, c'est une illustration parfaite du déséquilibre, n'est-ce pas ? Bon, le service public continue, malgré tout, à pencher, à tomber du côté où il penche, c'est-à-dire gauche et extrême-gauche.
Mmh. Et alors, justement, donc je reste un petit peu sur ce point. Évidemment, on a vu quelques auditions qui ont été publiées, donc pas toutes, hein, je précise quand même. Mmh. C'est-à-dire qu'un certain nombre se sont tenus à huis clos. Mmh. Simplement, évidemment, on pense à des personnalités comme Patrick Cohen et l'affaire Cohen-Legrand qui a eu lieu il y a quelques mois. Mmh. Dans le fond, comment ça se fait que des personnes qui ont effectivement été mises en cause dans quelque chose d'aussi important qu'encore une fois conseiller la gauche directement pour torpiller une candidate de, alors on va dire pas très à droite, mais en tout cas de droite quand même, Rachida Dati, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de conséquences dans ce cas-là? Est-ce qu'il n'y a pas une charte théoriquement à respecter par le service public et qui n'est pas respectée?
Non, mais il y a une charte, il y a des comités d'éthique, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut, tout ce qui est prévu par la loi existe, sauf que ça ne fonctionne pas. Mmh. Les comités d'éthique, vous le verrez dans le rapport, n'ont pas les moyens de fonctionner. Ils sont très peu saisis, ils ont très peu de moyens d'investigation, et surtout, il n'y a jamais de conséquences sur au débordement. L'ARCOM inflige des petites amendes ou, des avertissements, n'est-ce pas, en direction des services publics, alors que, s'agissant d'autres chaînes qui ne sont pas les services publics, ce sont les amendes, et ça va jusqu'à les interdictions. Oui. On l'a vu pour C8.
Oui.
Bon, on le retire carrément, le canal de diffusion. Donc là aussi, il y a un passage sur l'ARCOM dans le rapport. Il y a deux poids et deux mesures dans l'ARCOM, qui d'ailleurs est à la fois l'autorité qui, d'une certaine manière, nomme les présidents des chaînes et celle qui les contrôle. Mmh. Donc l'une des conclusions de Charles Lalonde, c'est qu'il faut absolument sortir de là, et que les présidents des grandes chaînes doivent être nommés par le président de la République.
Oui, parce que en fait, c'est effectivement ce que vous dites est intéressant dans le sens où on comprend pas tellement, par exemple, pourquoi l'Arcom pourrait demander le retrait ou le départ de Delphine Ernotte si l'Arcom a déjà nommé Delphine Ernotte. Pourquoi l'Arcom sanctionnerait Delphine Ernotte alors que l'Arcom a choisi Delphine Ernotte? C'est ça qui est assez paradoxal.
Exactement, c'est une aberration. Donc la recommandation du rapporteur, c'est que le président de la République nomme, comme autrefois, les présidents des grandes chaînes du service public. Mmh. Avec, alors c'est pas le président de la République tout seul, n'est-ce pas, comme un deus ex machina, c'est avec, comment dirais-je, après avoir consulté le Parlement, les deux chambres du Parlement, qui peuvent s'y opposer.
Simplement, pour revenir sur un point du vote du rapport, on est d'accord que donc, la gauche, effectivement, s'y est opposée en bloc. D'un autre côté, il faut dire que les centristes, eux, se sont abstenus et que vous avez eu des votes un petit peu inattendus. Justement, donc, on parlait de celui de Patrick Hélétus, président de la commission, mais également de la droite, en fait, qui finalement s'est ralliée à vous alors que ce n'était pas tout à fait prévu.
Alors, la droite a voté d'un seul bloc. Les députés LR, les députés RN, les députés UDR ont voté pour la publication du rapport. Il y a eu également un député Liotte, un député macroniste, bon, le président, et une députée non inscrite. Ça fait 12, hein, c'était à un près, hein, puisque si ça avait été 11-11, ça ne passait pas. Parce que le principe, évidemment, à l'Assemblée nationale, c'est le principe majoritaire, et quand il y a égalité, il n'y a pas majorité.
Donc, pour rester sur ce rapport, c'est un rapport non contraignant. Il faut le dire.
Bien sûr,
en fait, dans le fond, et la question qui se pose un petit peu pour tout le monde, c'est à quoi ça va servir à la fin? C'est-à-dire que, est-ce que c'est pas beaucoup de bruit pour rien? Est-ce que c'est pas finalement des mois de travail pour... Oui, alors certes, un dossier de 400 pages, mais qui a aucune valeur contraignante et qui a aucune valeur législative directe, qui, en fait, simplement, dans le fond, aurait pu être réalisé par des journalistes ayant accès à absolument tout et neutre, et voilà.
Oui, c'est un peu différent quand même, parce qu'une commission d'enquête parlementaire, si vous voulez, a des prérogatives très larges. On dépose sous serment. Le parjure est un délit. Il y aura peut-être d'ailleurs des poursuites pour parjure prochainement. Enfin, nous verrons ça. Ce qui est certain, c'est que ça n'est pas la même nature qu'un travail d'investigation journalistique. On va au fond des choses. Et les réponses doivent être apportées, les documents doivent être déposés. C'est une obligation légale. Ensuite, évidemment, les conséquences. C'est l'Assemblée nationale, ce n'est pas le gouvernement. Donc, l'Assemblée nationale n'a pas de pouvoir de contrainte. En dehors évidemment de du fait de faire des lois. Et justement, ce rapport donnera à coup sûr, fournira la source de nombreuses propositions de loi, ou, si nous parvenons au pouvoir, de projets de loi visant à rectifier le fonctionnement du service.
Bon, alors venons donc cette finalité du sujet aussi, c'est-à-dire que, est-ce que le Rassemblement National est toujours favorable à la privatisation de l'audiovisuel public? Si oui, est-ce que de tout l'audiovisuel public, dans quelles conditions? Comment ça se marche?
Ça, c'est dans le programme de Marine. Je vous invite à vous y reporter. Non, nous considérons qu'il n'y a pas de valeur ajoutée actuellement au service public de l'audiovisuel, donc qu'il peut être largement privatisé, ce qui fera des rentrées budgétaires intéressantes dans la situation que nous connaissons. Évidemment, il resterait, puisque nous sommes au conditionnel, une partie de services publics, bien entendu, Radio France Internationale, Radio France Outre-mer, et probablement une chaîne française aussi, enfin une chaîne métropolitaine aussi, parce qu'il faut que le gouvernement puisse disposer d'un outil de communication officiel si nécessaire, voyez-vous. Mais enfin, l'essentiel des autres chaînes de services publics, dont on ne voit pas en quoi elles sont un service public, véritablement, pourront être privatisées avec profit.
Parce qu'un paradoxe qui nous amène aussi sur un autre sujet, c'est qu'en réalité, ce service public sous-traite beaucoup d'émissions. Et ça a été un grand sujet, notamment, je pense, à deux ou trois sociétés, mais donc c'est BNJ, c'est Media One, donc Media One de Mathieu Pigas, millionnaire, qui pour le coup se revendique comme étant... comme utilisant ces médias pour promouvoir la gauche et les idées de gauche. Et à côté de ça, même Nagui, qui a sa propre société de production. En fait, dans le fond, c'est un service public, mais qui sous-traite au privé déjà. C'est ça qu'on a du mal à comprendre.
Il sous-traite au privé, il sous-traite à des amis, parfois à d'anciens agents même du service public qui ont créé leur propre société. Donc ça, c'est le deuxième point du rapport, ce sont les conflits d'intérêts. C'est-à-dire que Charles Laloncle estime qu'il y a là encore une fois, des biais, et qu'on découvre un système de, de copinage, de un système d'entre-soi. Où au fond, donc, on se partage un peu le gâteau, parce que tout ça, c'est quand même de l'argent public. Hein. Les sociétés dont vous parlez sont rémunérées avec l'argent public, bien qu'elles ne soient pas des agents officiels du service public, ce qui leur permet de dire à peu près n'importe quoi, et surtout de faire de la politique, hein, ouvertement. Mais elles font cette politique, qui est évidemment une politique de gauche, hein, avec de l'argent public. Et c'est ça que conteste le rapport. Ceci n'est pas normal. Donc c'est un procédé qui sera dénoncé, et qui, je pense, produira après des réactions législatives.
Sur le cas de Mathieu Pigasse, par exemple, lui, évidemment, on en a beaucoup entendu parler, notamment par sa nouvelle radio, Radio Nova, mais aussi donc sa société de production Media One. Quel est le rôle de Mathieu Pigasse, justement, un petit peu dans l'audiovisuel public actuel ?
Eh bien, bon, je ne sais pas s'il n'a pas un rôle. Excusez-moi.
Quel est son pouvoir, d'une certaine façon ? Qu'est-ce qu'il fait
Eh bien, c'est ça, écoutez, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux de l'audiovisuel ni de Monsieur Pigasse. Simplement, ce qui est certain, c'est que il y a là un travail d'influence. C'est très clair. Il y a une ligne éditoriale, il y a une ligne rédactionnelle, il y a une ligne politique qui transparaît à chaque émission, n'est-ce pas ? Et effectivement, il s'agit là d'une entreprise purement et simplement politique au service, comme dit Monsieur Pigasse, sans s'en cacher. Il n'y a aucune raison de s'en cacher d'ailleurs. Des idées de gauche.
Parce que l'audiovisuel public aujourd'hui coûte 4,4 milliards d'euros, si je ne m'abuse, et donc on paye 4,4 milliards d'euros par an dans le but de financer des émissions privées. C'est ça qui est assez, assez étonnant. Sûr, qui... Alors qu'en réalité, par exemple, je prends des chaînes, mais pas forcément ces mêmes LCI, BFM TV, Europe 1, etc., elles, on paye pas, pour le coup, on paye pas un centime pour les regarder, alors que c'est du privé. Donc, c'est ça qui est un peu particulier, c'est qu'en réalité, si on payait du public, dans le fond, ça aurait plus de, enfin, ça aurait déjà un certain sens. Mais comment expliquer justement ces transferts de compétences à du privé ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que l'audiovisuel public est obligé de faire appel à du privé ?
Oh ben, je pense que ce sont des affaires économiques. Hein. Ça coûtera peut-être moins cher au service public en tant que tel d'utiliser. Les services privés parce que ce sont des contrats globaux, hein, forfaitaires, donc il y a moins de frais de personnel, il y a pas de etc. Je pense que c'est pour des raisons budgétaires qu'ils le font, hein, mais également probablement aussi pour des raisons, comment dirais-je, moins avouables, à savoir, bon, vous pouvez dire ce que vous voulez puisque vous êtes des prestataires, hein, et vous agissez sous votre propre responsabilité, alors que nous, services publics, nous sommes malgré tout encore un petit peu encadrés par la loi et par l'ARCOM. Donc c'est, je pense, un système qui a été démonté, et c'est ce qui rend, la gauche aussi nerveuse, aussi fébrile et aussi agressive. On a quand même, vous verrez, les débats de la commission d'avant-hier qui a décidé de la publication et de l'adoption du rapport sont publics, seront rendus publics. Hein,
d'accord.
Ils seront rendus, vous verrez que, par exemple, il y a des députés de gauche qui n'hésitent pas à dire que le rapport est un torchon, par exemple. C'est quand même très... Sans être repris par le président, d'ailleurs, hein, ce qui est très choquant. Vous voyez, donc, on est au niveau de l'insulte, mensonge, torchon, etc. La gauche perd ses nerfs. Personnelle parce qu'elle sent que là, nous avons porté, je dis nous parce que je suis tout à fait pour le rapport sur le fond et sur la forme, nous avons porté le fer là où ça fait mal, c'est-à-dire dans un système qui est objectivement un système de copinage. C'est une forme de corruption au sens biologique du terme, c'est-à-dire que les choses se sont défaites de l'intérieur sans que personne n'y regarde. Et le mérite de la commission d'enquête, ça a été de jeter une lumière crue sur ces turpitudes. Et c'est pour cela que, ma foi, maintenant nous entrons dans le champ politique et que le combat sera rude.
Et sur la question de Delphine Ernotte. Delphine Ernotte, de son côté, c'est vrai que ça fait 11 ans maintenant, je crois, qu'elle est à la tête de l'audiovisuel public. Ouais. Elle est quand même assez universellement critiquée, même en interne, et pour le coup, elle non plus se cache pas de certains biais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une réforme à avoir de l'ARCOM qui nomme justement
Alors ça c'est prévu. Vous verrez dans le rapport, c'est prévu. L'ARCOM ne peut plus, si l'on suit les préconisations, les recommandations, ça s'appelle comme ça, du rapporteur, il faudra une loi, hein, il faudra ou agir sur le plan réglementaire. Il n'est plus possible, selon nous, que l'ARCOM soit à la fois juge et partie, c'est-à-dire qu'elle agisse sur la nomination des grands dirigeants du service public de l'audiovisuel et qu'en plus elle soit chargée de les contrôler. Mmh. C'est une contradiction véritablement manifeste. Mmh. Donc l'idée de Charles Laloncle, c'est, je vous le disais tout à l'heure, le président de la République nommera les dirigeants des grandes chaînes publiques après avoir consulté le Sénat et l'Assemblée nationale.
Il y a un auditeur en commentaire qui nous fait dire que, rapport à ce que vous disiez sur la commission, un torchon, il n'y a rien de plus efficace pour faire le ménage.
Très très juste.
Ce qui est très bien trouvé, je
oui, bien trouvé ça. Oui.
Chers auditeurs, je rappelle, merci d'être avec nous ce matin, je rappelle que nous sommes actuellement avec Roger Chudeau, donc député du Rassemblement National, membre de la commission d'enquête parlementaire, que nous parlons effectivement de cette commission sur l'audiovisuel public, mais il faut aussi vous rappeler, chers auditeurs, que si Ligne Droite, si Radio Courtoisie peut réaliser de telles émissions non subventionnées, eh bien c'est grâce à vous.
Voilà, l'argent public sert à financer des chaînes, mais pas Radio Courtoisie, figurez-vous, cher Alexandre. Et puis rappelez-vous cette citation de Sacha Guitry, « Nous ne pensons qu'à l'argent, celui qui en a pense au sien, et celui qui n'en a pas pense à celui des autres. Mmh. » Eh bien, nous pensons à votre argent, chers amis, mais c'est pour la bonne cause, pour diffuser le message de Radio Courtoisie. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr ou vos chèques au 61 boulevard Murat, Paris 16e, et il faut les libeller à l'ordre de Radio Courtoisie, bien sûr. Merci d'avance.
Merci Franck.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, Alexandre de Galzin.
Roger Chudeau, donc je reviens avec vous. Je rappelle que vous êtes député Rassemblement National, membre de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public dont nous parlons ce matin. Le rapport donc a été approuvé par la commission. Il sera publié officiellement lundi prochain. 400 pages de rapport tout de même. Il y a un sujet sur lequel je voudrais vous emmener aussi. C'est un sujet dont on n'a pas encore... En fait, qui est un petit peu passé sous le boisseau. Mmh. C'est celui de Radio France. Mmh. Radio France, c'est une radio donc, qui possède France Culture, France Info, qui possède également de nombreuses antennes locales, avec ici, je crois que c'est le nouveau nom, exactement.
C'est le nouveau nom, oui.
D'une certaine façon, Radio France, certes, a un biais idéologique, il y a France Inter, évidemment, Radio France, certes, a un biais idéologique, mais par exemple, il faut le dire aussi, il y a du bon sur France Culture.
Oui, oui, ah ben bien sûr, mais sur France Musique aussi.
Hein. Oui, j'écoute France Musique. Voilà.
Évidemment, j'écoute aussi des émissions de France Culture, il y en a d'excellentes. Mais alors, dès qu'il s'agit d'actualité, alors là, c'est très frappant.
Oui.
C'est-à-dire que le ton change. Après une conférence, je ne sais pas moi, sur l'œuvre de Proust, tout à fait passionnante, on tombe soudain sur une radio militante qui nous explique qu'à Gaza, il y a eu un génocide, qui nous explique que M. Trump est fou allié, qui nous explique... Qui fait de la politique.
Oui, en tout cas, c'est des sujets qui se débattent théoriquement.
Donc, c'est clair, la ligne est claire. La ligne éditoriale est tout à fait évidente. Elle saute aux yeux, elle saute à l'oreille, si j'ose dire. Et donc, c'est ça qui est assez choquant. Je comprends pas comment des radios qui, sur le plan culturel, sont de grande qualité, incontestablement, peuvent se laisser aller ainsi, dès qu'il s'agit d'informations, à faire de l'information militante au lieu de faire de l'information journalistique. Ça, c'est ça qui est absolument scandaleux et qui, je pense, devra changer, hein, ça c'est certain.
Un point que je pense une question que pas mal de personnes se posent, notamment dans le camp national au sens large, c'est... alors, je vais le poser la question de manière volontairement provocatrice, mais la gauche a depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans un outil de propagande absolument formidable. Pourquoi pas le mettre à notre service ?
Oui, bah justement,
vous voyez l'idée de fond, c'est-à-dire qu'en fait, dans le fond, il y a quand même cette hégémonie de la gauche actuellement. Pourquoi même ne pas reprendre le service public ? Pourquoi vouloir absolument justement le privatiser et pas au moins, disons, le rendre à sa mission originelle ? Pourquoi ne pas justement reprendre le service public et se dire que, par exemple, dans un an, Alexandre de Galzin serait journaliste présentateur du service public d'une matinale de France Inter ? Ne serait-ce que rendre ça plus équilibré ?
Non, mais pour le rendre équilibré, eh bien, écoutez, privatisons et laissons la loi du marché, la loi de l'offre et de la demande, la loi du consommateur, le jugement de l'auditeur, décider. Hein. Une chaîne, finalement... privée, elle vit grâce à la qualité de ses émissions et à son auditoriat, c'est-à-dire aux gens qui la suivent, qui s'y abonnent ou qui la suivent régulièrement dans la voiture, le matin, le soir, etc. Et donc, laissons faire les choses, n'est-ce pas ? Pourquoi avoir une sorte de radio officielle, n'est-ce pas, qui serait la voix d'une majorité, etc. C'est antidémocratique. Hein. Nous considérons qu'il peut y avoir une voix de l'État, ça c'est sûr. Donc il est une voix, enfin une radio qui porte l'intérêt général, mais dans un domaine restreint qui est celui de l'information générale, etc., de la sécurité. Mais pour tout le reste, il n'y a aucune raison pour ne pas laisser faire les grands opérateurs privés qui savent très bien faire de l'information, qui la font de manière diversifiée, de manière pluraliste, et qui, d'une certaine manière, sont soumis à la loi du marché. C'est-à-dire...
Pardon, mais Roger Chudeau, pas toujours. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, par exemple, évidemment, vous regardez BFM TV, vous regardez, soyons honnêtes, hein, même CNews, il y a quand même des partis pris qui sont particulièrement marqués. Et, d'une certaine façon, on peut pas faire confiance au privé pour devenir plus neutre que l'État. Je suis pas sûr que ça fonctionne
Mais il ne s'agit pas de demander au privé de renier ses orientations, mais chacun, au moins, elles sont visibles. Chacun sait que CNews est ancré à droite, chacun sait que BFM TV serait, je ne sais pas, vaguement macroniste, centre-gauche, centre-mou, peu importe. Mais tout le monde le sait, tout le monde le voit, et chacun se décide, chacun trouve chaussure à son pied. L'idée, c'est au fond la liberté. Nous, au Rassemblement National, nous sommes pour la liberté d'expression. Donc nous ne tenons pas du tout à nous approprier le service public pour y déverser notre propre propagande. C'est grotesque, il n'y en est pas question. Donc nous sommes pour la liberté d'expression et pour la loi du marché en matière d'audiovisuel, comme pour le reste, ma foi. La main invisible du marché fonctionne. Les gens trouvent l'émission qui leur plaît, la tonalité qui leur plaît, l'orientation politique qui leur plaît, chacun est libre, c'est un problème. Mais il faut au moins qu'il y ait une offre diversifiée.
Et sur France Culture et France Musique, par exemple, dont on parlait, qui sont des chaînes plus... qui ne sont pas d'information, quelque part, est-ce que le Rassemblement National, si jamais il arrive au pouvoir en 2027, vous souhaiterez les conserver ?
Oui, alors, je voulais dire des chaînes qui...
Mais je parle spécifiquement, par exemple, de France Culture ou France Musique.
Alors... Ce sera vu au cas par cas, je pense sincèrement. Mais effectivement, des chaînes de cette qualité, dont la qualité intellectuelle, conceptuelle est évidente, elles peuvent être privatisées. Je ne vois pas très bien pourquoi le fait que l'argent viendrait non pas de l'État, c'est-à-dire de nos poches, mais de consommateurs ou d'abonnés, changerait quoi que ce soit à la qualité de l'émission. Après tout, une émission musicale, de critique ou... Elle n'a pas besoin d'argent public, je veux dire, elle peut le faire avec l'argent privé. Je ne vois pas très bien le rapport, en fait, voyez.
Autre question, évidemment, qu'on a assez peu abordé, finalement, dans le fond, c'est tout l'aspect financier. Tout l'aspect financier, donc on le disait, hein, 4,4 milliards d'euros par an sur l'audiovisuel public. Ouais. Déjà, première question, est-ce que la suppression de la redevance télé, finalement, a eu de réels effets ou est-ce que c'était plutôt du maquillage pour, finalement, passer ça à la TVA?
Alors... D'une certaine manière, ça a tout changé, puisque autrefois, la redevance, enfin je veux dire, le service public de l'audiovisuel côté télévision, était payé par ceux qui possédaient un téléviseur ou plusieurs téléviseurs. C'est assez logique, c'était des consommateurs qui payaient directement. Ouais. Désormais, de par la loi, tous les Français payent pour la télévision, même s'ils ne la regardent pas. Donc c'est pour ça d'ailleurs que ceci donne une grande légitimité à ce rapport, c'est que nous sommes tous concernés. Autrefois, on aurait pu dire, ça concerne les, je ne sais pas moi, 10 millions de téléspectateurs. Oui. Mais maintenant, c'est...
Il y avait une vision presque de consommateur. Quelque part, je consomme du service public, donc je paye du service public.
Voilà, d'accord. Aujourd'hui, tout le monde paye. Qui regarde la télé ou pas. Et donc, c'est une affaire d'intérêt général qui concerne tous les contribuables, tous les Français. Et c'est pour ça que, du coup, le rapport à cette légitimité-là, c'est que fait-on de notre argent ? Ce que propose Charles Alloncle, c'est de passer de 4,4 milliards à 3 milliards.
Ouais. Donc, un tiers du budget en moins.
Oui, bien sûr. Enfin, on peut. Il y a des chaînes qui servent, qu'on peut fusionner, vous verrez dans le rapport, mais fusionner, c'est Antenne 2, c'est ça, avec... non, pas Antenne
France 2.
Oui, France 2, pardon. France 2, France 2 avec TV5, avec... supprimer des chaînes de radio qui n'ont pas de public, en fait, comme le Move ou des trucs comme ça. La jeunesse ne regarde pas ça, parce que ça fait longtemps que c'est complètement ringard. Et donc, ce sont des économies de bon sens, et puis ensuite, contracter aussi les dépenses invraisemblables du service public. Alors, dans son fonctionnement.
Venons-y, c'est-à-dire qu'en réalité, on a entendu beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'existe pas? Est-ce que, par exemple, on a entendu parler, je crois, d'un château dans le sud-ouest de la France qui appartiendrait à France Télévisions, on a entendu parler de nombreuses voitures de fonction, on a entendu parler de frais de taxi invraisemblables.
Oui, absolument, mais c'est des centaines de milliers d'euros qui sont dépensés pratiquement sans contrôle. Il y a eu l'affaire du Festival de Cannes, hein, où la direction, les dirigeants des grandes chaînes de service public ont été reçus dans des conditions somptuaires, les voitures de service, des rémunérations vraiment, on va dire, qui sont en dehors de tous les canons de la fonction publique.
C'est-à-dire
je veux pas préciser ni être trop personnel, mais enfin, quand un dirigeant gagne plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, je regrette, mais... Ah oui. Le président de la République, lui, gagne 15 000 euros par mois. Hein, oui. Donc, c'est pas comparable, évidemment. Mais enfin, c'est quand même invraisemblable. Il y a beaucoup d'argent. On a le sentiment, pour être un peu vulgaire, que certains se sont gavés et continuent de le faire avec de l'argent public. C'est dans le rapport. Je pense que ça va faire mal. Hein, mais c'est tout à fait normal que les Français sachent ce qui advient de leur argent.
Et parce que là, actuellement, vous ne pouvez pas donner toutes les informations qui sont dans le rapport.
Non,
je précise.
Il faut qu'il soit publié.
Vous avez un secret à respecter jusqu'à lundi prochain, donc jour auquel le rapport sera publié.
Oui.
D'un autre côté, ce qui est vrai, c'est que finalement, on a cette idée que même quand on travaille dans l'audiovisuel public, on reste dans le service public.
Mmh.
Et on a l'impression que, contrairement même, on pourrait dire, même s'ils ont leurs propres défauts, hein, mais aux fonctionnaires ou fonctionnaires d'autres entreprises d'État, d'une certaine façon, l'audiovisuel public, parce que c'est de l'audiovisuel, il faut que le champagne coule à flot.
C'est un petit peu ça, voilà. Bon, on est entre soi, on fait la fête. Tout ça est très gentil, je comprends bien, mais bien sûr que dans le domaine culturel, dans le domaine de l'information, il y a des codes à respecter. Je veux dire, on ne va pas servir à ses invités du Perrier, hein, au lieu de leur servir du Dom Pérignon. Mais enfin, il y a quand même des limites, si vous voulez.
Oui.
On pourrait, par exemple, prendre du Cordon Rouge plutôt que du Dom Pérignon ou du Ruinard.
Oui.
C'est une petite chose, hein. Ça peut paraître mesquin, mais enfin, mis bout à bout, ça fait des centaines de milliers, voire des millions d'euros.
Mmh.
Et ça, c'est de l'argent public, et là-dessus, si vous voulez, la plaisanterie a assez duré. La Cour des comptes, d'ailleurs, hein, sur la façon dont les comptes sont tenus, a été très sévère. Hein. Et évidemment, comme d'habitude, si vous voulez, il y a des tas de rapports, mais c'est comme si c'était de l'eau sur les plumes d'un canard. Quoi. Ça glisse, et ça ne produit rien.
D'une certaine façon... sur tout cet argent, cette manière dont il est dépensé, en réalité, est-ce que on a entendu quelque chose comme quoi, effectivement, quand on mettait de l'argent dans le service public, on en retrouvait plus après? C'est-à-dire que finalement, l'argent investi dans le service public, c'était de l'argent qui ruisselait quelque part et qui n'était pas de l'argent perdu. Est-ce que dans les 4,4 milliards qui sont quand même le budget, ces 4,4 milliards qui rapportent quelque chose ou ces 4,4 milliards de creux de déficit?
Alors, c'est pas 4 milliards, non, c'est pas un déficit.
Voilà.
C'est 4,4 milliards, c'est la part, c'est pratiquement la moitié du budget du ministère de la Culture, quand même. Hein. C'est pas rien. C'est quand même. C'est un budget d'investissement et de fonctionnement. Donc, c'est dépensé intégralement, bien entendu. C'est même dépassé, d'ailleurs. Alors, est-ce que ça rapporte. Il faudra regarder les comptes de presse, sincèrement. Je ne peux pas répondre à cette question. Que ça ruisselle, oui, mais je suis pas sûr que ça ruisselle au bon endroit, si vous voulez. Ça ruisselle toujours un peu sur les mêmes, par le système dont on parlait précédemment, de l'entre-soi, hein, où d'anciens agents du service public créent leur propre entreprise et contractent avec le service public, etc., où ils sont à ce moment-là beaucoup mieux rémunérés. Enfin bon, bref, ce système, si vous voulez, qui n'est pas formellement interdit, il n'est pas légalement interdit, hein, puisqu'il est pratiqué, c'est contractualisé, c'est conventionnel, etc. Bon, bref. Mais malgré tout, si vous voulez, c'est quand même très choquant. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'intérêt pour le service public de dépenser l'argent public dans ces conditions-là.
Et justement, sur cette question après de la loi du marché qui pourrait s'imposer derrière, en réalité, moi je vais prendre un exemple très simple, hein, mais c'est celui de T18, donc nouvelle chaîne qui a été lancée, qui fait des audiences, ridicules, c'est-à-dire que finalement eux ont une chaîne de télévision théoriquement avec beaucoup plus de moyens que Radio Courtoisie et font sans doute, je crois, des audiences qui peuvent aller à 5000 auditeurs par émission. De toute façon, c'est pas forcément beaucoup mieux, Est-ce que aujourd'hui, l'État, finalement, n'a pas aussi une plus-value à ne serait-ce que posséder ces fréquences, n'a pas une plus-value également à produire certaines, j'en sais rien, certaines séries, certaines, certains films, certains téléfilms. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose justement de...
Moi je pense que l'État ne doit rien produire du tout en matière de visuel, c'est pas son rôle. Si vous voulez, l'État a assez de, comment dirais-je, de missions qu'il a d'ailleurs du mal à réaliser, à effectuer et à respecter, pour ne pas en plus se charger de devenir lui-même producteur de télévision. Hein. Que l'État s'occupe de l'école, que l'État s'occupe de l'hôpital, de la sécurité, de l'immigration, de l'économie, ce sera déjà bien. Laissons les professionnels de ce champ d'activité de la société agir en toute liberté. Évidemment, l'État contrôle, je veux dire, il y aura toujours une forme d'ARCOM, oui, n'est-ce pas, pour éviter des dérives.
À part sur le fait de renommer Radio France, vous comptez justement conserver l'ARCOM dans sa forme actuelle, si on met ça de côté?
Pas dans sa forme actuelle, sûrement pas. Non, je pense que le statut de l'ARCOM sera revu. Hein. Bon, on n'en est pas vraiment là. C'est un petit peu tôt du point de vue programmatique pour le dire, mais enfin, il est évident que le fait que l'ARCOM manifestement agisse de façon très souvent biaisée, en tout cas, prête le flanc à ce type de reproche. Hein. Soyons prudents, parce que il ne faut pas parler... comment dirais-je, sans documenter, mais enfin bon, quand même, nous considérons, nous, que l'ARCOM doit être revu dans son fonctionnement, dans son organisation, dans son budget et dans ses missions, notamment ne plus intervenir du tout dans la nomination des dirigeants du service public.
Autre question, donc dans les 400 pages qui vont sortir lundi, sans rentrer dans le détail, en fait, à quoi est-ce que les Français peuvent s'attendre, quels seront les points quelque part à surveiller, quels seront les sujets, en tout cas d'intérêt, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'encore une fois, je sais que vous n'avez pas le droit, mais d'une certaine façon, qu'est-ce qui sera vraiment à regarder dans ce rapport?
Dans ce rapport, déjà, il faut...
Tout, j'imagine.
Oui, il faut aussi regarder. Mais bon, il faut regarder les propositions, les presque 80 propositions de Charles Alloncle, hein, qui sont intéressantes, des propositions de fusion, des propositions de suppression de chaînes, des propositions d'économie. Il y en a quand même de très, très fines. Et donc, je pense que cela donnera lieu à de la production législative. Alors, évidemment, tout le monde sait que nous sommes à un an d'élection présidentielle, que la session parlementaire 2025-2026 s'achève dans quelques mois, que le temps parlementaire est extrêmement compté. Donc il y a peu de chances pour que on aboutisse du point de vue législatif à des progrès en matière de pilotage et de financement du service public. Mais donc tout cela est effectivement reporté à l'après-présidentiel.
Il y a quand même une niche parlementaire UDR le 25 juin.
Oui.
Est-ce que Charles Alon déposera des propositions?
Je ne sais pas. Il faut lui demander. D'accord. L'ignore parce qu'ils n'ont pas stabilisé encore. Je sais qu'il y a une niche UDR, mais les textes ne sont pas encore sortis officiellement ni stabilisés. Il faudrait le leur demander.
Et ben, on demandera effectivement à Charles Alon de quand il viendra à notre antenne, on l'imagine bientôt.
Ouais.
Je voudrais revenir aussi sur une deux ou trois personnalités qui effectivement ont été particulièrement au sein de la commission opposées à la publication de ce rapport. Notamment la socialiste Aïda Hadizadeh, et le député LFI Aurélien Saint-Toul, qui eux deux se sont particulièrement manifestés. En fait, moi, quelque chose que j'arrive pas forcément à comprendre dans toute cette affaire, c'est eux aussi ont pu participer aux auditions, eux aussi ont pu donner leur avis au cours de cette commission. Pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument, selon vous, empêcher la publication du rapport?
Pour les raisons susdites, c'est-à-dire que ils considèrent que ce rapport est une charge contre un domaine qui leur appartenait en propre, une sorte de domaine réservé de la gauche, hein, comme l'éducation ou la culture ou le spectacle vivant. Donc la gauche considère qu'elle est chez elle et que d'ailleurs elle y est chez elle. Elle a implanté depuis très longtemps ses agents, si je puis dire, ou ses représentants à tous les niveaux de décision et d'administration. Elle a noyauté le système, il faut bien le dire, et le audiovisuel est parfaitement, nous semble-t-il, aussi largement noyauté par la gauche. Alors, M. Saint-Toul était quand même rapporteur de la commission Bétaram. Il s'est comporté comme un procureur impitoyable, comme une sorte de Robespierre à la petite semaine, notamment avec François Bayrou, dans une scène odieuse à laquelle j'ai assisté du début à la fin. Donc, il est assez mal placé pour donner à Charles Alloncle des leçons de, comment dirais-je...
Courtoisie.
Oui, voilà, en lui disant, c'est assez ridicule. Quant à Mme Hadizadeh, bien sûr, elle a été la passionnariat, entre guillemets, hein, de la gauche sur ce sujet, n'hésitant pas à s'aîner à Charles Alloncle qu'il avait menti. Et lorsque Charles Alloncle lui a demandé « J'ai menti sur quoi ?» Eh bien, lui répond « Vous avez menti parce que vous avez utilisé un sondage CSA. CSA appartient à Havas et Bolloré a des actions à Havas. » Vous voyez le truc ?«
Toc, toc, toc. »
Donc, à partir du moment où Monsieur Bolloré apparaît quelque part dans le paysage, même en tant qu'actionnaire minoritaire, il ne peut s'agir que de mensonge. Voilà où on en est avec cette députée qui a été vraiment extrêmement virulente avec Charles Alloncle.
Il y a également un autre député, Erwan Balanan, qui lui veut publier un contre-rapport maintenant.
Oui, alors bon, il n'y a pas de contre-rapport. Erwan Balanan nous a fait une sorte de fixation. Une fixette presque, hein, sur un échange qu'il avait eu avec Charles Alloncle lors d'une audition. Et Edouard Balanan avait prononcé une phrase, c'est « Tu vas voir, on va te régler. Donc tutoiement et on va te régler. » Je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, mais enfin bon, ça paraissait menaçant. Et Charles Alloncle lui a dit « Vous me menacez. » Et donc, bon. Et donc, une partie de la commission, je ne trahis pas de secret, ce sera dans les minutes qu'on pourra lire la semaine prochaine, donc ce n'est pas un secret. Une partie de la commission s'est passée à cette espèce de face-à-face entre Charles Alloncle et Edouard Balanan, Balanan exigeant que ces passages soient eux aussi retirés, bon, ce qui n'a pas été fait. Et alors, il a expliqué qu'il allait faire un contre-rapport. C'est grotesque, il n'y a pas de contre-rapport. Ça n'existe pas, c'est simple. Bon.
Oui.
Par contre, ce que peut faire le groupe auquel il appartient, mais seulement le groupe, c'est ajouter une contribution au rapport. Il y a le rapport, c'est évidemment l'œuvre du rapporteur, aidé par les administrateurs, bien sûr. Il peut être précédé d'un avant-propos du président, ce que Patrick Lettus a annoncé, ce qui est parfaitement son droit, et il peut être complété par les contributions des groupes politiques. Donc il est possible que le RN fasse une contribution, il est possible que Modem fasse une contribution, vous voyez, c'est totalement libre. Donc M. Balanan, s'il veut s'exprimer, devra demander à son groupe l'autorisation de publier une contribution. Mais M. Balanan fait une affaire personnelle, c'était assez ridicule, il faut le dire.
Y a aussi quelque chose que j'avais repéré en préparant cet entretien et que je viens de retrouver. Un article de France Info qui a été publié, hier. Article de France Info dans lequel, une phrase de Charles Alloncle est citée et où, je pense, une bonne douzaine de citations de tous les opposants au rapport sont cités. Bien quand sûr. Même un symbole là-dedans qui est absolument formidable. Et on sent que même le service public, même sur toute cette affaire, finalement, se défend lui-même énormément. Ça. C'est-à-dire que, pour le coup, on sent que jamais ils n'ont été autant menacés et ils ont sorti l'écrou, si vous me passez l'expression.
Sorti l'écrou parce que, bon, eux, ils réduisent la chose à une offensive du groupe Bolloré contre le service public. C'est totalement ridicule. Il n'y a pas d'offensive du groupe Bolloré. Il y a une Assemblée nationale.
En tout cas, ou si on a une, ça se fait en dehors du cadre législatif.
Bien sûr, mais il peut y avoir tout ce qu'on veut. Je veux dire, la concurrence est libre. Hein, simplement, ceci n'a rien à voir avec le cadre législatif. L'Assemblée nationale a cette prérogative de contrôler l'usage des fonds publics et de contrôler l'action de l'État. C'est constitutionnel. La commission d'enquête parlementaire est une des modalités. C'est une sorte d'outil, hein, dans la boîte à outils parlementaire, de ce contrôle, et il n'y a pas à sortir de là. Je veux dire, il n'y a pas d'instrumentalisation de la commission.
Et sur la question de... Parce qu'on a vu que, justement, Yael Braun-Pivet, elle, s'était énormément investie aussi sur ce dossier, au point que, d'ailleurs... c'est une affaire aussi qui a été interne à ce vote, hein, mais que Charles Alloncle avait écrit une phrase, on va dire, anti-Braun-Pivet dans son rapport, qu'il a dû supprimer pour trouver un compromis. Et en parallèle, ce que je trouve assez surprenant, c'est que les macronistes, eux, se sont abstenus.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a une sorte de...
Ah, ça, les macronistes, avec eux, c'est toujours dû en même temps, si vous voulez. Donc, vous savez pas. Donc, on a fini par comprendre que si la phrase relative à la présidente de l'Assemblée nationale n'était pas retirée, les macronistes voteraient contre. Ce qui, évidemment, à 9, faisait basculer le vote. Bon. Donc, elle a été retirée, et ils ont tenu parole, ils se sont simplement abstenus. Ils n'ont pas voté pour. Hein, grande surprise, parce que, franchement, pour des démocrates, ne pas vouloir explicitement qu'un rapport de cette nature soit rendu public C'est-à-dire, c'est un geste profondément démocratique. C'est quand même un peu étrange. Mais enfin bon, c'est du macronisme. Le macronisme, c'est toujours une chose et son contraire. Bref, enfin, l'essentiel, c'est qu'il soit abstenu. Finalement, ça a permis au texte de passer.
Mmh. Dernière question, peut-être très rapidement pour conclure. Roger Chudeau, il y a un auditeur qui demande où est-ce qu'on pourra retrouver ce rapport, justement. Alors, pour.
Il sera publié au JO, au Journal officiel de la République française. Il sera publié, il sera sur le site de l'Assemblée nationale. Et à mon avis, il sera édité. Hein. On devrait pouvoir se le procurer à la Documentation française.
Très bien. Ouais. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Roger Chudeau, d'avoir essayé d'avoir un petit peu éclairé toute cette affaire en interne sur la commission, oui, comme aussi sur les grandes lignes de ce rapport. Sans doute qu'on vous recevra aussi pour, on va dire, rapport en main,
oui.
pour l'analyser, et pour même que vous nous parliez un petit peu aussi de ces auditions qui ont lieu à huis clos et dont, encore une fois, on ne peut pas tout à fait parler pour le moment.
Non.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Roger Chudeau, et on vous dit à très bientôt ici sur Ligne Droite.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, merci d'être avec nous ce matin ici sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Il est 8h14, dans un instant ce sera la chronique de Philippe Vardon, puis nous recevrons Jean-Yves Le Gallou qui nous parlera donc du dernier sondage au sujet du grand remplacement qui a eu lieu. Également à 8h57, nous retrouverons Emmanuel de Gestas, mais tout de suite, un petit rappel des titres de l'actualité avec Maëlys Clozel.
Le rapport de Charles Lancle sur l'audiovisuel public adopté à l'Assemblée ne fait pas que des heureux, à commencer par le centriste Erwan Balanant, qui annonce vouloir produire un contre-rapport. On imagine qu'il est quelque peu contrarié de voir les Français découvrir la partisanerie de l'audiovisuel public. Et en déplacement à Andorre-la-Vieille, Emmanuel Macron, aussi co-prince d'Andorre, pousse à la dépénalisation de l'avortement. Une prise de position qui suscite de vives critiques pour ingérence, tandis que Xavier Espot-Zamora évoque une évolution encadrée dans un pays attaché à la protection de la vie à naître et ses fondements catholiques. Et dans un entretien à l'AFP, Marine Le Pen privilégie un second tour en 2027 face au Bloc central plutôt que contre Jean-Luc Mélenchon afin d'aboutir à un véritable choix politique pour les Français. Elle cible notamment Édouard Philippe, tandis que les sondages annoncent un duel plus serré face à lui qu'avec Jordan Bardella face au meneur des Insoumis. Et nous célébrons ce 29 avril Sainte-Catherine de Sienne et Saint-Tropez.
Merci beaucoup Maëlys.
Ligne droite.
Et comme chaque semaine, comme chaque mercredi, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Vardon, qui aujourd'hui d'ailleurs est dans notre studio. Bonjour Philippe.
Bonjour Alexandre. Jean-François Copé vous avait-il manqué ?
Pas du tout.
Ah, et bien voici à nouveau le maire, ancien député de Demeaux, entend les plateaux et les colonnes des journaux. Je ne sais pas si vous avez prévu de l'accueillir d'ailleurs. Alors les plus anciens auront envie de reprendre la formule socialiste et de s'écrier avec nous « Au secours, Copé revient ». Quant aux plus jeunes, ils se diront sans doute que, comme la Team Rocket, il est de retour pour nous jouer un mauvais tour. Pour ces derniers, rappelons un instant quel type de Pokémon rare est ce Jean-François Copé, car il faut dire que, telles les petites créatures des dessins animés de votre enfance, celui-ci peut connaître de nombreuses évolutions. Alors Copé, c'est un classique de la droite RPR, puis UMP, puis LR, maire, puis député de Meaux en Seine-et-Marne depuis 1995. Il a occupé des responsabilités de premier plan comme ministre, président du groupe UMP à l'Assemblée, et même président de l'UMP. Alors sur ce dernier point, on se souviendra peut-être du psychodrame de son élection à la tête du parti en 2012, l'emportant face à François Fillon avec 50,03% des suffrages, 98 voix d'avance. Alors un résultat évidemment que les fillonistes contesteront, alors même que des fraudes et triches sont dénoncées dans plusieurs bureaux de vote, de part et d'autre d'ailleurs. Ce sera l'occasion de recours, de péripéties juridiques, administratives, et on découvrira à cette occasion la fameuse COCOE. Vous en souvenez peut-être, la commission d'organisation et de contrôle des opérations électorales, la COCOE de l'UMP. Si Copé parviendra à se maintenir à la présidence de l'UMP, cet épisode abîmera le parti durablement. Alors Copé va se retrouver à mêler à pas mal d'autres affaires, à cause de son, je cite, amitié personnelle avec le marchand d'armes Ziad Takieddine, de risque de conflit d'intérêts avec ses activités d'avocat, ou encore avec l'énorme affaire Big Malion qui verra son directeur de cabinet à la présidence de l'UMP, Jérôme Lavrieux, se faire seppuku et assumer la totalité des responsabilités. Alors s'il s'était présenté dans sa campagne pour la présidence de l'UMP en 2012 comme le héros de la droite décomplexée, Jean-François Copé est un homme capable d'une certaine flexibilité sur ses convictions. Tiens, par exemple, concernant les retraites. En décembre 2001, Il s'engage au nom de son parti à préserver le système de retraite des agents publics d'EDF et de GDF en cas de privatisation. Mais en juillet 2016, 15 ans plus tard, il estime que la droite a commis l'erreur de ne pas avoir réformé les régimes spéciaux des retraites. Droite décomplexée, mais pas trop. Hein. En septembre 2015, il salue la démarche d'accueil de l'Allemagne depuis la crise migratoire et prône l'accueil des réfugiés en France qui fuient la guerre en Syrie. Il considère que les réfugiés syriens sont du fait de leur instruction et de leurs compétences une chance pour la France, on connaît cette formule. En octobre 2009, déjà, il s'était dit choqué, je le cite, qu'il soit quasiment impossible d'apprendre l'arabe dans l'éducation nationale. C'est choquant. Et la même année, il déplorait d'ailleurs que la droite n'aille pas assez loin pour placer sur des listes électorales, je le cite, des candidats issus de la diversité. Je sens que vous en voulez encore, oula, Alexandre. Ouais. Opposant à la loi Taubira ouvrant le mariage aux personnes de même sexe en 2013, le fameux mariage pour tous, contre lequel il manifestera. Il dit depuis avoir changé d'opinion sur le sujet, qualifiant même cette prise de position de seul grand regret de sa vie politique. Il déclare également avoir évolué, on s'en doute, sur la question de la PMA, notant qu'il ne s'y oppose pas ou plus, on ne sait pas. Et oui, la droite décomplexée de Copé s'est finalement très en même temps. Et ainsi, en février 2018, il déclare que la politique menée par Emmanuel Macron correspond à ce qu'il croit. Et le voici donc revenant avec un livre. « Quand les populistes trahissent le peuple », chez Plon, où il plaide pour une droite sans concession, mais avec les partis populistes. Hein, voilà le grand danger pour la France et l'Europe. Alors, on n'est pas certain qu'il en vende beaucoup. Je me suis même lancé le défi d'en vendre plus que lui. Et si vous voulez participer à cela, je rappelle que mon livre est toujours en vente sur patrotard.fr. C'était la seconde réclame. Mais ça lui permet donc d'avoir une petite tournée des télés et des radios. Alors, ce retour de Copé, hein, il s'inscrit dans ce que certains de vos confrères, Alexandre, ont inscrit dans une offensive des Chiraciens, voire des bébés Chirac. Hein, il avait fait, c'est vrai, le choix de soutenir Chirac face à Balladur en 1995, intégrant la Task Force Juppé, et oui, ça sonne redoutable, dans la campagne présidentielle. Et alors que ceux qui sont présentés comme Chiraciens ne sont pas tous des bébés Chirac, d'ailleurs, mais ce qui les lie, c'est le refus de la droitisation de LR, incarné selon eux par Retailleau, et vous aurait compris le refus de toute porosité avec la droite nationale. Et on a donc un trio de tête, Copé, Bertrand, Pécresse. Oui, ça fait rêver. Je vois les étoiles dans vos yeux, Alexandre. Chirac, Juppé, on ne s'étonnera pas qu'Édouard Philippe ne soit pas très loin. Ce dernier a salué dans une tribune le livre de Copé. Et le maire de Meaux de saluer ce salut. La boucle est bouclée et c'est l'occasion pour Édouard Philippe de défendre le cordon sanitaire tracé et souhaité par Jean-François Copé entre la droite et, je le cite, le Rassemblement National et ses satellites, s'inscrivant comme lui parmi les tenants de l'héritage gaulliste et chiracien. On n'est pas certain que le général, lui, reconnaisse ici ses petits. S'agissant de tribune, Copé en a commis une hier dans le Figaro pour essayer de se dépêtrer d'une mauvaise passe qui pollue un peu la sortie de son livre. Car Jean-François Copé, qui prône la fermeté et le réalisme en même temps, dans son livre, a, au nom du réalisme donc, laissé siéger une élue LFI voilée dans son conseil municipal, et il s'en est justifié le plus maladroitement du monde en expliquant que la France a changé, et même que c'est il y a 20 ans qu'il aurait fallu interdire le voile, ce que lui et ses amis n'ont pas davantage fait lorsqu'ils étaient au pouvoir, voici précisément 20 ans. Avec ce type de logique, on peut aussi se demander si du coup, dans 10 ans, le maire de Meaux ne reviendra pas nous dire que c'était avant qu'il fallait interdire la charia, que maintenant c'est trop tard, ce qui a poussé Marion Maréchal à le qualifier d'islamo-soumis en d'autres temps et dans d'autres terres, on aurait parlé de dhimmi. D'autant que dans sa tribune, Copé va plus loin et poussant le raisonnement qu'il avait tenté de tenir avec difficulté face à Pascal Praud sur CNews, il nous dit donc que, au lieu de parler des musulmans, on ferait mieux de parler aux Français musulmans. Et il appelle donc la droite à se tourner davantage vers les électeurs musulmans, et je le cite encore, qui représentent désormais une part considérable de la population française. Alors, comme tous les élus ne sont pas des islamo-soumis, je me permets de vous rappeler, chers auditeurs, qu'Anne Sicard, députée Identité Liberté du Val-d'Oise, a déposé avec le soutien des députés RN et UDR une proposition de loi contre l'entrisme islamiste dans les collectivités locales et le port du voile par des élus municipaux. Il y a une pétition de soutien à cette proposition de loi que vous pouvez signer sur stop-entrisme.fr, stop-entrisme.fr. Que nous dit finalement Copé le bébé Chirac? Qu'il est trop tard pour interdire le voile, qu'il faut bien s'adapter à la présence de millions de musulmans sur notre sol. Répondez-lui donc en commençant par signer cette pétition, en soutenant tous ceux qui s'insurgent contre la fatalité, selon le dernier témoignage de Dominique Vénère, en ne devenant jamais cet être qui renonce et se soumet comme Copé, parce que nous savons, que même s'il est déjà très tard, il n'est pas encore trop tard.
Bravo pour vos placements de produits, cher Philippe Vardon, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous, même si votre populisme nous fait peur.
À bientôt.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Ligne droite, débattons-en.
Et pour ce nouvel entretien ici sur Ligne droite, la matinale de Radio Courtoisie, nous recevons Jean-Yves Le Gallou, que vous connaissez bien, chers auditeurs. Jean-Yves Le Gallou, bonjour.
Bonjour Alexandre de Gazin.
Alors je rappelle que vous êtes président de Polémia, que vous êtes le cofondateur aussi de l'Institut Iliade, que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, on ne va pas tous les citer, mais enfin tout de même Mémoires identitaires 1968-2025, Les Dessous du Grand Basculement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas exactement de ce grand basculement dont nous allons parler, c'est aussi du grand remplacement. C'est un sujet évidemment que vous connaissez bien, que vous avez même été sur lequel vous avez été un des pionniers en France. Nos auditeurs le savent. Je précise aussi que j'anime cet entretien avec Maëlys Clozel. Peut-être la première question que je voudrais vous poser, Jean-Yves Le Gallou, c'est que autant en 2022, le grand remplacement est un thème qui s'est vraiment imposé dans la campagne présidentielle, notamment par l'effet d'Éric Zemmour. Maintenant, c'est plutôt le terme de remigration qui est revenu et le terme de grand remplacement qui a redisparu.
Non, le terme de grand remplacement n'a pas disparu. Il s'est un peu imposé. Aujourd'hui, c'était un terme qui était entre guillemets controversé, voire qualifié de complotiste, et qui aujourd'hui s'est imposé parce que tout simplement, c'est la réalité. Mais à partir de ce constat, à partir de cette réalité, il faut se poser la question de la solution. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est très simple. Si on ne fait rien, on aboutit à la submersion migratoire, au fait qu'à terme, les Européens seront minoritaires sur la terre d'Europe, les Français minoritaires sur la terre de France. Et donc, si on veut éviter ça, il faut adopter la seule solution possible, c'est-à-dire la remigration, c'est-à-dire l'inversion des flux migratoires, passer d'une immigration qui s'accumule chaque année à hauteur en Europe, de 4 à 5 millions de personnes supplémentaires, à hauteur en France de 500 000 personnes supplémentaires, eh bien, il faut passer à un solde négatif pour reprendre la maîtrise de la situation, parce que sinon, la dynamique démographique est telle que, eh bien, d'ici une dizaine d'années, une quinzaine d'années, les bébés français seront minoritaires dans les maternités. Mmh. Donc, la remigration, c'est la solution.
Oui, alors justement, vous l'avez dit, la remigration, c'est la solution. Et d'ailleurs, un récent sondage de l'IFOP, publié donc en avril, est assez révélateur puisque 6 Français sur 10 évoquent un remplacement de la population et 66% s'en inquiètent. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Yves Le Gallou ?
Ça m'inspire le fait que la réalité saute aux yeux des Français. Je dois dire d'ailleurs, quand on fait le sondage aujourd'hui, il y a une partie des gens sondés qui sont... issus de l'immigration, et donc ce qui biaise un petit peu le résultat.
Oui, bah après, ça ne leur empêche pas d'avoir le constat, enfin d'adhérer au constat aussi.
Ça ne les empêche pas d'adhérer au constat, ça les empêche peut-être de les conduire à penser que c'est un constat négatif, parce qu'ils peuvent peut-être aussi voir des aspects positifs dans la mesure où le monde de l'immigration fonctionne sur la logique des diasporas, c'est-à-dire les diasporas ethniques ou religieuses amenant d'autres personnes de la même diaspora à s'agréger auprès d'eux. Mais à partir du moment où il y a le constat, il faut maintenant que l'opinion comprenne, et après l'opinion, les hommes politiques qui comprendront toujours avec retard, que l'opinion comprenne qu'il faut adopter les solutions qui valent, il faut tirer les conséquences de ce constat.
Et déjà, en 2021, un sondage qui était sorti donc, durant la campagne présidentielle et sur cette thématique portée par Éric Zemmour à l'époque, encore une fois, du grand remplacement, ce qui est assez paradoxal, c'est que à la fois, à cette époque, 53% des Français disaient « oui, il y a un grand remplacement », d'un autre côté, 55% des Français disaient aussi que c'était raciste.
Parce que la tendance de l'opinion est quand même d'absorber comme une éponge ce qu'on lui dit et ce qu'on lui répète. Il faut bien voir qu'on vit, et vous avez reçu Roger Chudeau avant moi pour parler du rapport à l'oncle, que que les Français baignent dans de la propagande permanente. Mmh. Et que, contrairement à ce que les gens croient parfois, la propagande, c'est efficace. Et si vous recevez en permanence un message comme quoi ceci est raciste, bah vous finissez par plus ou moins le croire et reprendre à votre compte ce qu'on a mis dans votre tête.
Et justement, selon vous, qu'est-ce qui a provoqué ce basculement d'opinion ? Est-ce que c'est parce que les Français se frottent au réel et donc ils le constatent et le déplorent, comme le titre de l'entretien ? Enfin, qu'en est-il selon vous ?
Ah, je crois que c'est le réel, oui. Oui, je crois que, si vous voulez, on est dans une situation où la volonté des médias de grand chemin, de service public ou non d'ailleurs, a été de cacher le réel. Voilà. Mmh. Et il y a un moment où le réel, il a explosé à la figure de l'opinion, notamment parce que on est passé d'une situation où l'immigration était limitée dans quelques zones à une immigration qui est maintenant répandue absolument partout, oui. Puisque la politique, c'est la répartition sur le territoire national. Et la répartition sur le territoire national, c'est quoi ? Eh bien, c'est le développement de l'insécurité dans des villes de province, voire des villes petites ou moyennes. Mmh. L'impossibilité pour les femmes de circuler librement dans ces mêmes endroits. Et donc, c'est difficile d'échapper à cette réalité. Maintenant, l'étape actuelle, l'étape prochaine, c'est d'arriver aux solutions et non pas de faire comme on l'entend à nouveau, la petite musique de M. Attal, de M. Philippe et de quelques autres. C'est on va réguler l'immigration. Ça fait 50 ans qu'on parle de réguler l'immigration. Ça ne marche pas. La question, ce n'est pas la régulation. On va dire on va limiter l'immigration clandestine. Ce n'est pas la limitation de l'immigration clandestine. Ce n'est pas la régulation. La solution, il faut le dire clairement, c'est la remigration. Mmh. Il faut... C'est la remigration. L'immigration est nuisible. L'immigration est une catastrophe. Eh bien, il faut en tirer les conséquences et inverser le sens des flux.
C'est vrai que sur le constat, il semble que maintenant tout le monde est absolument tout le monde est d'accord. Il y a deux points que je voudrais soulever en votre compagnie. C'est d'abord le premier, évidemment, cette question de la Nouvelle France qui est portée par la France Insoumise. On voit d'ailleurs que ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce même sondage, ceux qui pensent qu'on assiste à une transition démographique profonde et qui pensent que c'est une bonne chose, eh bien, en fait, sont 32% des Insoumis, 39% des écologistes. Eux, ils disent il y a un grand remplacement en France et c'est très bien. Comment ça se fait que finalement même ces gens en viennent à être d'accord avec nous sur le constat mais simplement sont passés de la négation de ce constat en expliquant que la France avait toujours été une terre d'immigration, etc. Ce grand discours qu'on a toujours entendu, ils sont passés de ça à finalement oui, vous avez raison, il y a un grand remplacement, mais c'est super.
Oui, c'est ça. Alors, il y a la novlangue là, qui vient au service. Alors, il y a la novlangue mélenchoniste. C'est la Nouvelle-France. La Nouvelle-France, c'est le Québec. Mmh. Le Québec, c'est quoi ? C'est des Français de l'Ouest, de Bretagne, qui vont coloniser, mettre en valeur une terre vide et qui en font effectivement une petite France, une Nouvelle-France. Là, c'est tout à fait différent. Ce sont des gens qui arrivent d'Afrique ou du monde musulman pour implanter leur mode de vie sur notre territoire qui est déjà... très, très occupé, très densément occupé. L'Europe est la partie une des parties les plus densément occupées du monde. On n'a pas besoin de gens qui viennent d'ailleurs. On a mis en valeur notre terre, on l'occupe, on n'a pas besoin de gens venus d'ailleurs. Il y a un autre terme qui a été lancé par l'académicien M. Orsena sur l'irrigation.
Oui, alors c'est
l'irrigation.
Ça,
voilà. Je pense d'ailleurs que M. Orsena qui a, je crois, une maison de villégiature sur l'île de Bréa. Je ne suis pas sûr que les gens qui ont une maison de villégiature sur l'île de Bréa ont très envie d'être irrigués par cette population nouvelle. Je ne crois pas.
Peut-être que ça pourrait leur faire changer d'avis.
Mais il a table ouverte, si je puis dire, sur le Figaro, alors que le Figaro, par exemple, ne parlera pas de remigration. Mmh. Je pense qu'ils en parleront dans 10 ans, peut-être quand ce sera trop tard. Ouais. Il y a un moment...
Pour l'instant, on est encore dans la phase « qu'est-ce que la remigration ?» ce concept prôné par l'intellectuel d'extrême droite Jean-Yves Le Gallou.
Oui, c'est ça. Voilà. Merci de votre qualificatif. Oui, le problème, si vous voulez, c'est que je suis peut-être d'extrême droite, comme vous dites, je suis surtout d'avant-garde, oui. Parce que je pose les problèmes un peu avant les autres, ou avant beaucoup d'autres, en tout cas.
Autre point, juste précisément sur ce débat, et après je laisserai Maëlys Clauzel revenir sur ces questions. Simplement, on a eu un débat très, très intéressant l'autre jour, que je vous invite à regarder, tant c'est lunaire d'une certaine façon. C'est un débat entre Kachetier Roubaud, donc un porte-parole du PCF, et Antoine Léaumont, donc de la France Insoumise, donc, qui débattent sur, je crois, c'est la chaîne de l'Humanité, qui débattent. Et alors, ce qui est assez fantastique, c'est que ce porte-parole du PCF explique que non, il n'y a pas de nouvelle France, parce que la France a toujours été une terre d'immigration, et finalement se retrouve à être dépassé par sa gauche, par celui qui va dire que oui, en fait, il y a bien une nouvelle France, et qu'il y a bien un grand remplacement. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, on a l'impression que même le PCF, qui est, on va dire d'une certaine façon, pro-remplacement, enfin en tout cas pro-immigration dans le fond...
Il n'a pas toujours été d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs qu'il n'a pas toujours été, mais finalement, on a l'impression qu'il y a toujours un vieux système quelque part qui irait de LR jusqu'au PCF d'une certaine façon. Je crois Renaud Camus a un thème pour ça, c'est qu'il appelle
les négationnistes.
Oui, voilà, exactement, les négationnistes du grand remplacement.
Et du génocide.
Exactement. Et d'un autre côté... on se retrouve sur les deux ailes de la politique française à avoir désormais donc cette opinion majoritaire selon laquelle ça existe bien. Est-ce qu'il y a encore un vieux système selon vous qui s'accroche et qui...
C'est le vieux système de propagande qui a dit la France est une terre d'immigration, ce qui est tout à fait faux, puisque la France, elle a été stabilisée, la population de la France, elle monte à plus de 3000 ans. Et elle n'a pas bougé, sauf de manière périphérique, ou à l'époque des grandes invasions, par l'arrivée d'autres populations européennes.
Et qui ne représentaient pas grand monde.
Et qui ne représentaient que quelques pourcentages, donc ça ne représentait pas grand-chose. Et c'était des voisins, si je puis dire. La France est stable depuis 3000 ans. Et il y a eu un début d'immigration à la fin du 19e siècle, au 20e siècle, qui était une immigration européenne, qui n'a évidemment rien à voir, soit polonaise, belge, italienne... puis après espagnole et portugaise, qui n'a rigoureusement rien à voir avec l'immigration africaine ou l'immigration musulmane, qui est une immigration qui vient de civilisations différentes et même assez largement antagonistes, parce que je rappelle quand même que l'islam, c'est 15 siècles de conflit avec la chrétienté et l'Europe. Voilà, ça la réalité.
Alors Jean-Yves Le Gallou, vous le savez certainement, mais même à droite, il y a des gens qui expliquent qu'on a quand même besoin d'immigration, notamment dans le travail. Voilà, ils disent que la main-d'œuvre, entre guillemets, le sale boulot, si on peut le nommer ainsi, ne se ferait pas si les immigrés n'étaient pas là. Vous, qu'est-ce que vous avez à leur répondre ?
Je crois que c'est un contresens absolu. C'est-à-dire que l'immigration massive que nous subissons, notamment à travers la clandestinité et le travail clandestin, ne règle pas le problème des difficultés à trouver des personnes pour occuper ces emplois. Elle le crée, parce que l'arrivée de ces populations diminue la qualité des conditions de travail, diminue le niveau des salaires versés et fait disparaître la population française qui pourra occuper ces emplois. On peut prendre un exemple très simple. Il y a 10 ans ou 20 ans, même peut-être un peu moins, il y avait des étudiants qui pouvaient faire des livraisons. Aujourd'hui, avec les cadences demandées et le prix horaire qui est à peu près de 5 euros, la main-d'œuvre française ou étrangère déjà installée en France, qu'on oublie de dire, puisque les poches de chômage les plus importantes, ce sont les étrangers installés en France et les descendants d'étrangers en France, ne vont pas dans ces métiers-là parce qu'ils sont pris... par des gens qui acceptent des salaires beaucoup plus bas. Donc, c'est l'immigration clandestine qui crée les problèmes de pénurie de main-d'œuvre dans le bâtiment ou la restauration.
Et d'un autre côté, comment vous expliquez que, par exemple, encore une fois, sans mettre en cause vos propres compétences, mais que le MEDEF, qui justement représente toutes les grandes entreprises, tous les gens qui ont directement intérêt à faire à la croissance et à faire marcher leurs entreprises, vous expliquez que le MEDEF soit pro-immigration, quand vous expliquez que par exemple, les secteurs où il y a le plus de pénurie de main-d'œuvre, je pense notamment à la restauration, on a des sortes de Thierry Marx qui vont nous expliquer du matin au soir que maintenant, il faut construire des HLM pour les clandestins que lui fait venir pour bosser dans ses cuisines.
Parce que lui, il transfère la charge au public.
Oui.
Lui, il fait baisser les prix de gens qui payent des repas de 100 ou 300 euros, et il fait payer la charge du logement, des soins, de l'aide sociale à la collectivité. Mmh. Vous savez, il s'appelle Marx. Et bien Marx, les travailleurs étrangers, clandestins, c'est l'armée de réserve du capital, comme les chômeurs étaient l'armée de réserve du capital pour Marx l'autre. Voilà. Et côté, oui, c'est une affaire entre marxistes. Mais... J'ajoute que le MEDEF n'est pas chargé de l'intérêt général. Le MEDEF, il a une vision à court terme. Et si vous êtes court-termiste, eh bien oui, vous vous dites, je vais trouver du monde comme ça. Si vous raisonnez, ne serait-ce qu'à l'horizon de 3 ans ou 5 ans, vous recréez un marché plus naturel.
Mais en disant ça, vous divisez le prolétariat, Jean-Yves Le Gallou.
Comment je divise le prolétariat?
Ben voilà, c'est-à-dire que c'est ce que vous répondrez à la gauche.
Je ne considère pas que les gens qui sont dans les cuisines des restaurants ou qui servent dans les restaurants des prolétaires. Hein, ouais. Ce sont des métiers tout à fait respectables dont il est absolument scandaleux qu'on ait dégradé les conditions de travail.
Alors justement, il y a un refus massif de cette immigration, n'en déplaise à la gauche et à la propagande du service public. Pensez-vous justement que ce refus de l'immigration peut être carrément traduit dans les urnes, notamment en 2027?
Alors, je crois que le problème, c'est pas seulement qu'il se traduise dans les intentions. Parce que dans les intentions, oui, il va se traduire dans les urnes, soit pour le vote pour un candidat national, ou une candidate nationale, ou des candidats nationaux, soit même pour les candidats de l'extrême-centre, que ce soit M. Attal ou M. Philippe, qui passeront quelques bonnes paroles sur le sujet, il faut qu'ils se traduisent dans les faits, et qu'on fasse comprendre aux Français qu'ils doivent reprendre le pouvoir sur l'immigration, le pouvoir sur les politiques migratoires, soit directement par référendum, soit à travers le travail de leurs parlementaires. Et il faut affirmer clairement que la loi doit l'emporter sur les interprétations, sur les traités internationaux, sur les conventions internationales, et que la loi doit reprendre le pouvoir politique doit reprendre le pouvoir sur les juges. C'est ce que j'appelle le juge exit. Ce n'est pas seulement un problème français, dans tous les pays européens, il y a le problème des juges qui imposent une immigration dont les populations ne veulent pas, en se plaçant exclusivement du point de vue du droit des migrants et non pas du point de vue de l'intérêt général.
Alors Jean-Yves Le Gallou, il y a aussi une question, c'est qu'aujourd'hui, bon, le parti qui pourrait lutter contre l'immigration, qui a le plus de chances de l'emporter aujourd'hui, c'est le Rassemblement National. Vous critiquez souvent le Rassemblement National, comment est-ce que vous voulez qu'il vous écoute?
Oh bah écoutez, moi je les critique parce que je critique quand ils méritent d'être critiqués, c'est-à-dire quand ils ne font pas avancer les choses dans la bonne direction parce qu'ils sont peut-être parfois trop craintifs, et donc je pense que c'est assez utile qu'il y ait à côté des partis des forces intellectuelles ou métapolitiques qui mettent en avance un certain nombre d'idées et qui en quelque sorte préparent le terrain.
Mais Élise Clauzel, la question de la fin.
Oui, bien écoutez, donc le grand emplacement est démocratisé, hein, maintenant c'est plus un sujet. Est-ce que vous pensez que justement la remigration peut suivre un petit peu le même chemin et mettre demain d'accord la majorité des Français?
Je pense, pour vous répondre, ainsi que pour répondre à Alexandre, vous remarquerez que pendant très longtemps, le Rassemblement National, je crois encore aujourd'hui, ne parle pas du grand emplacement.
Non.
Le grand emplacement s'est imposé. Dans l'opinion, voilà, parce que c'est un fait. Je pense qu'aujourd'hui, le Rassemblement National ne parle pas ou pas encore de remigration, mais que la remigration s'imposera dans l'opinion, non pas parce que c'est un fait, mais parce que c'est une absolue nécessité.
Mais alors, est-ce qu'on a vraiment besoin, justement, d'employer ces mots-là précisément? Parce qu'on a l'impression que ce qui fait peur au RN aujourd'hui, c'est pas tellement de... Enfin, en fait, ils sont d'accord pour dire qu'il y a une modification de population, mais dans le fond, ils veulent pas utiliser les termes grand emplacement, ils sont d'accord pour renvoyer un certain nombre d'étrangers, mais ils veulent pas appeler ça remigration. Est-ce que c'est si important d'utiliser ces termes-là?
Bah oui, parce que mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde.
Eh bien écoutez, on finira avec cette citation de Peggy, c'est bien ça?
Oui, je crois que c'est ça.
Oui, voilà, de Peggy, merci beaucoup Jean-Yves Le Gallou d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de Polémia, que vous êtes également le cofondateur de l'Institut Iliade et que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages dont Mémoires identitaires, qu'on vous invite à aller acquérir aux éditions Via Romana. Merci beaucoup.
Et la remigration.
Et la remigration.
Et la remigration pour l'Europe de nos enfants. À acquérir cette fois à la Nouvelle Librairie ou à l'Institut Iliade.
Eh bien très bien, voilà, c'est comme ça la promotion est faite et
absolument,
on mettra ça à jour. Merci beaucoup Jean-Yves Le Gallou, à très bientôt sur Radio Courtoisie.
Merci à vous deux.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, merci d'être avec nous ce matin. Dans quelques minutes, nous recevrons Emmanuel de Gestas pour l'analyse. Il nous revient du front ukrainien et nous expliquera un petit peu quelle est la situation sur le terrain, sur place. Et puis, plus tard, à 9h25, il y a la chronique d'Éric Doutrebente et puis la revue de presse de Gilles Brochard. Mais tout de suite, c'est la chronique de Louis Rigaudière.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.